ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bikech, dirigé par Bernard Ludan avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 5 septembre 2001 de 18 à 21h, en différé jeudi 6 septembre dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Chers auditeurs, bonsoir. Bernard Lugan au micro, le libre journal de Serge de Bekech, que j'ai le plaisir et l'honneur de diriger ce soir, avec Victoria, bien sûr, Dominique Vénère et Philippe Conrad. Une émission qui va être divisée en deux parties. Une première partie qui fera un petit tiers de l'émission, un peu moins d'un tiers, et qui sera la partie habituelle de l'actualité africaine. Il y a pas mal de choses à dire, notamment concernant la mascarade de Durban, en Afrique du Sud. Et la partie centrale de l'émission, qui sera consacré à la suite de la série que nous avons commencé à étudier depuis 3 mois sur les grands événements de la Seconde Guerre mondiale. Après avoir étudié Pearl Harbor, après avoir étudié les campagnes du Kalkingol et de Mandchourie le mois dernier, nous allons parler aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire de la guerre germano-soviétique, de la campagne de l'été 1941, de l'opération Barbarossa, donc en seconde partie de l'émission. Première partie de l'émission, donc, consacrée à l'actualité africaine, et je demande à Philippe Conrad de prendre le relais.
Oui, alors l'événement évidemment le plus marquant ces jours derniers dans l'actualité africaine, c'est bien entendu la conférence organisée sous l'égide de l'ONU à Durban en Afrique du Sud sur la question du racisme, de la lutte contre le racisme. Et l'on sait que cette conférence a été quelque peu agitée, puisque d'une part un certain nombre de pays africains ont posé la question d'une repentance des pays qui avaient pratiqué jadis la traite esclavagiste. Ils ont posé la question de réparation également. D'autre part, les pays arabes qui étaient représentés ont voulu assimiler la politique israélienne à une politique raciste et sont revenus sur cette assimilation du sionisme et du racisme qui avait été abandonnée par l'ONU il y a quelques années. Évidemment, la conjoncture actuelle, les événements du Proche-Orient actuel expliquent cette démarche. Alors cette conférence semble fort mal parti, puisque les Américains, on l'a vu, et les Israéliens sont déjà partis, l'ont abandonné. De toute manière, les principaux pays du monde n'avaient envoyé que des délégations d'une importance tout à fait secondaire, et il est question également que les Européens abandonnent le débat à cause de leur refus d'une part de cette assimilation entre sionisme et racisme. Ils veulent ménager protéger l'État d'Israël et d'autre part parce qu'il refuse aussi de voir poser la question d'éventuelles réparations pour ce qu'a été jadis l'esclavage, puisque les principaux intéressés aujourd'hui semblent oublier que ce sont les pays européens, c'est les pays occidentaux qui ont mis un terme justement à ce fléau de l'esclavage qui existait bien avant la traite atlantique et qui a existé bien sûr et continue à exister après. Alors Bernard, vous qui êtes un spécialiste de l'Afrique, vous qui aviez écrit un certain nombre de lignes fort intéressantes dans votre Afrique, l'histoire à l'endroit, sur cette question de l'esclavage, comment interprétez-vous le fait que cette affaire arrive aujourd'hui sur le devant de la scène? Pourquoi cette revendication et pourquoi maintenant et pourquoi aussi peut-être en Afrique du Sud?
Mais disons que pour dire un mot sur ce qui se passe à Durban, les mots les plus doux et les plus descriptifs sont ceux de parodie, de cirque, de mascarade. Une véritable mascarade dont le but est la phase ultime de la culpabilisation de l'homme blanc. En fait, tout a été organisé pour faire payer l'homme blanc, pour faire payer cet homme blanc qui est accusé de tous les maux, qui est accusé de tous les crimes. De tous les maux, de tous les crimes, et d'abord de l'esclavage, et ensuite de la colonisation. C'est une conférence qui tourne autour du thème de la réparation. Nous sommes coupables et nous devons payer parce que nous sommes coupables. Nous sommes ou nous serions coupables de quoi? Nous serions coupables d'avoir vendu les Noirs comme esclaves et nous serions coupables d'avoir ensuite colonisé l'Afrique et donc de l'avoir pillée. Il faut bien voir qu'en ce moment se déroule une entreprise qui a franchi une étape dans l'acte d'accusation. Jamais nous n'avions vu dans les années précédentes et dans les périodes précédentes une telle accélération du phénomène de la culpabilisation. Je n'en veux que pour exemple le dossier spécial du Monde qui est sorti il y a quelques semaines sur la culpabilité coloniale, le livre noir de la colonisation. De même que l'on va parler du livre noir de la période allemande, le livre noir du stalinisme, et on va nous parler maintenant du livre noir de la colonisation. Un recul complet par rapport à l'état des connaissances, basé sur des études tronquées partiales et partielles, et lorsque l'on lit ce dossier du Monde, enfin l'historien professionnel, spécialiste de l'Afrique, qui lit ce dossier du Monde, est atterré par le manque d'approche scientifique de la question. Il n'y a que des bibliographies, dans ces bibliographies, nous n'ont cité que les ouvrages tiers-mondistes, que les ouvrages allant dans le sens de l'idéologie officielle. Aucun ouvrage contrebalançant cette idéologie n'est cité, à part ceux qui sont mis en avant pour faire rebondir l'argumentation centrale de ce numéro spécial, qui est de dire que la colonisation, c'est un crime. Car en fait, nous en arrivons là. Colonisation égale crime. Crime, eh bien, il faut un crime, réparation. La réparation va se faire comment? Eh bien, par de l'argent. L'aide n'est pas suffisante. L'aide, qui était une action gratuite et une action de bonne volonté, doit être totalement changée. C'est une action de réparation. Ce n'est pas parce que nous avons bon cœur, ce n'est pas parce que nous sommes charitables que nous devons aider l'Afrique, c'est parce que nous l'avons pillée, c'est parce que nous sommes coupables et nous allons être condamnés à des réparations. Alors depuis des années, ce phénomène est en train de grossir. Depuis des années, j'en parle souvent et j'en ai parlé déjà il y a plus de 15 ans quand j'ai sorti mon livre « Afrique, l'histoire à l'endroit ». J'en parlais déjà à l'époque, en 1988, je crois, 87. L'on sentait pourquoi? Parce que lorsque l'on est, comme moi, universitaire et qu'on lit les ouvrages qui sont publiés en langue anglaise et lorsque surtout on lit ce qui se fait aux États-Unis, et lorsque l'on sait quel est le poids du courant afro-américain et de l'afrocentrisme, c'est pour cela que nous avons consacré une émission à Cheikh Anta Diop et à l'afrocentrisme il y a deux mois ici sur les antennes de Radio Courtoisie. Car là, le cœur du problème est là. Nous avons affaire aux États-Unis à 15% de la population qui est une population d'origine africaine. Ces gens sont frustrés de leur passé, sont frustrés de leur histoire, et ces gens ont une revanche à prendre. Et comme l'Amérique n'existe pas en tant que corps politique, l'Amérique, nous le savons très bien, est composée d'une juxtaposition de groupes de pression. Parmi les groupes de pression qui font la politique américaine, nous avons le groupe de pression des Noirs américains, ceux que l'on appelle les Afro-Américains. Et ces Afro-Américains, depuis des années, ont mis en avant cette idée de culpabilisation de l'homme blanc et cette idée des réparations. Et il est bien évident qu'au fur et à mesure que nous nous éloignons de la période coloniale, au fur et à mesure que les années passent, et au fur et à mesure que les yeux s'ouvrent, et au fur et à mesure que même les plus tiers-mondistes de nos hommes politiques, même les plus tiers-mondistes de nos idéologues, se rendent compte que si l'Afrique est dans cette situation dramatique aujourd'hui, ce n'est pas la faute de la colonisation, mais la faute inhérente à un certain nombre de problèmes essentiellement africains, plus on avance dans cette idée, et plus l'aide est remise en question, et plus l'idée des réparations intervient. Puisque la coopération a échoué, pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons peut-être, puisque l'aide au développement a échoué, et puisque les donateurs commencent à cesser de vouloir donner à fond perdu, il va falloir qu'ils soient condamnés à payer. Condamnés pour des crimes imaginaires. Et ces crimes imaginaires deviennent des crimes réels. Et s'est dressé tout un courant dont la fonction est précisément de dresser l'acte d'accusation de l'homme blanc, afin d'assimiler esclavage et colonisation, afin d'assimiler colonisation et crime, afin d'assimiler colonisation et déportation des juifs, afin d'assimiler le crime contre l'humanité et colonisation. On mélange tout. C'est pour cela d'ailleurs que la délégation israélienne est partie, parce que la délégation israélienne se trouve prise au piège d'un certain nombre d'idéologies, et elle se retrouve prise au piège dans la mesure où les délégués des pays du tiers-monde veulent assimiler le sionisme au génocide. On arrive à une position de folie complète. On ne sait plus ce que veut dire quoi. On ne sait plus quelles sont les définitions. À l'heure actuelle, on la parole dans cette pantomime, dans cette pitrerie, dans cette comédie de Durban. Tous les groupes les plus extrémistes, des minorités les plus oubliées. Alors ceux qui font le plus de bruit, ce sont les intouchables hindous. Alors les intouchables hindous se sont constitués en lobby, un lobby tellement actif qu'ils arrivent à s'introduire dans toutes les réunions. Et ils ont réussi par Internet et par l'informatique à pirater tous les circuits intérieurs. Ce qui fait que lorsque les délégations communiquent, lorsque des organes centraux veulent communiquer pour coordonner les débats, arrivent les déclarations de principe des intouchables des Indes, toutes les minorités qui ont totalement pris en main cette réunion de Durban et qui l'ont transformée en une vaste comédie. Et je dois dire que je suis enchanté de voir que ceci se transforme en comédie, parce que l'on voit le peu de sérieux ces gens qui prétendent réécrire l'histoire selon leurs revendications de niveau freudien et qui veulent assimiler la colonisation à un génocide. Premier point. Alors, le deuxième point, c'est celui de l'esclavage. Parce que ce point de l'esclavage, c'est tout de même fondamental. C'est fondamental parce que le mensonge tiers-mondiste, qui a été complètement réduit en miettes par les études universitaires de ces 20 dernières années, qui a totalement été envoyé dans les oubliettes d'une histoire tiers-mondiste passée. Il n'y a plus que dans les sacristies des églises gauchistes que l'on enseigne encore l'idée que la traite a été faite par les Blancs. L'on sait très bien que la traite des esclaves est quelque chose qui existe dans toute l'histoire de l'humanité. Toute population a toujours vendu les vaincus en esclavage. Toute population, ça a toujours existé. Pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire pour l'Afrique, ce ne sont pas les Blancs qui ont inventé la traite, qui ont inventé la pratique de l'esclavage. L'esclavage a toujours existé. Dès qu'une tribu remportait une victoire sur une autre, les membres de la tribu soit étaient vaincus, soit étaient massacrés, soit les femmes et les enfants étaient absorbés comme esclaves, soit les hommes étaient pris. Il y a toujours eu cette réalité. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a en fait deux traites, deux grandes traites. Nous reviendrons longuement là-dessus dans une émission que nous consacrerons quasi exclusivement à cela, parce que le prochain numéro de l'Afrique réelle, qui sortira fin novembre, début décembre, aura comme dossier central la question de la traite, la vérité sur la traite, parce qu'il est quand même temps, de même que nous avons étudié l'afrocentrisme et la critique de Cheikh Anta Diop dans le numéro actuel de l'Afrique réelle, mais nous allons étudier à fond cette histoire de la traite, de façon à véritablement donner à nos auditeurs des arguments pour réfuter cette vulgate tiers-mondiste qui nous est assénée tous les jours par les médias. La réalité de la traite est que la moitié de l'Afrique a vendu l'autre moitié de l'Afrique. Ce sont des Noirs qui ont vendu d'autres Noirs. Et si réparation, les Noirs américains doivent demander, mais ils doivent les demander à leurs frères du Bénin, à leurs frères du califat de Sokoto, à leurs frères de Zanzibar, à leurs frères du royaume d'Al-Hadj Omar, à leurs frères du royaume de Samori, à leurs frères des royaumes du golfe de Guinée, à leurs frères qui les ont vendus comme esclaves. Parce que ce ne sont pas les Européens qui sont allés capturer les esclaves au cœur du continent africain. Ce sont des tribus courtières. Ce sont des tribus qui avaient, ou des peuples, qui avaient des liens avec les Européens et qui livraient les esclaves sur le littoral, et les Européens les achetaient. Attends, je n'exonère pas du tout la responsabilité des Européens. Je dis simplement que la vérité est là. Et parallèlement à cette traite, antérieurement à cette traite, et postérieurement à cette traite, existait une autre traite, qui était la traite musulmane, dont on ne parle jamais. Parce que la traite européenne est une traite qui a duré de la fin du, disons, de la mi-16e siècle, 15e, 16e siècle, jusqu'au début du 19e siècle. Grosso modo, 3 siècles. Nous savons presque à 10 000 ou 20 000 près le nombre d'esclaves transplantés depuis l'Afrique sur le continent africain. Nous le savons comment ? Nous le savons par des études tout à fait sérieuses qui ont été faites par des spécialistes américains, anglais, français également, et qui ont dépouillé toutes les archives des ports négriers, des capitaines négriers, les livres de bord, et surtout les livres de compte des marchands d'esclaves au point d'arriver sur le continent américain. Donc nous savons très bien, à quelques dizaines de milliers de près, combien il y eut d'esclaves transportés. On peut dire que la fourchette oscille autour de 11 à 12 millions d'esclaves sur 3 siècles. Premier point. Mais parallèlement à cette traite, antérieurement et postérieurement, il y a eu la traite musulmane, qui, elle, a commencé dès le début de la conquête musulmane en Afrique, dès le 8e siècle. Et cette traite musulmane a duré jusqu'au 20e siècle. Et qui a arrêté cette traite musulmane ? La colonisation. Ce sont tout de même les colonisateurs et les missionnaires qui ont stoppé cette traite. Car l'Afrique orientale était en phase d'être vidée de sa population par la traite. Toute la partie de la cuvette orientale du Congo, toute la partie du Maniema, toute la partie de la Tanzanie actuelle, toute la région du lac Nyassa, du lac Malawi, toute cette zone était en train d'être totalement vidée par une traite qui se faisait à destination de Zanzibar, pour le seul marché de Zanzibar. Les chiffres exacts dont nous disposons. Parce que le sultan de Zanzibar, qui tirait sa fortune de la vente des esclaves, le sultan de Zanzibar, entre 1822, 1823 et 1860 environ, a fait tenir par ses fonctionnaires des livres de compte très précis. Et chaque esclave qui était débarqué d'un boutre arabe sur l'île de Zanzibar devait enrichir le sultan de Zanzibar. Et les capitaines de ces boutres arabes versaient une pièce d'argent, le thaler de l'impératrice Marie-Thérèse, c'est la pièce qui avait cours dans l'océan Indien, c'était la monnaie de compte de l'océan Indien, donc un thaler de Marie-Thérèse par esclave débarqué. Et les fonctionnaires du sultan de Zanzibar étaient sur le littoral, sur le port de Zanzibar, pas sur le quai, parce qu'il n'y a pas de quai, mais sur le rivage, et ils comptaient les esclaves qui débarquaient pour que les pièces d'argent puissent entrer dans les comptes du trésor du sultan. Donc nous avons les livres de compte du sultan, et nous savons que sur le seul marché de Zanzibar, ont été vendus entre 600 000 et 800 000 esclaves sur cette période qui va de 1820 à 1822 à 1860. Nous avons des chiffres pour ceci. À la différence de la traite atlantique, qui est la traite européenne, pour laquelle nous avons des chiffres totalement précis, car les Européens tenaient des livres de compte, pour le monde musulman, nous ne l'avons pas, cette facilité historique, sauf pour Zanzibar. Mais il y avait bien d'autres routes d'exportation des esclaves noirs toutes les routes transsahariennes qui aboutissaient au Maroc, qui aboutissaient dans l'Algérie actuelle, qui aboutissaient en Tunisie, qui aboutissaient en Libye. Et cette traite musulmane était une traite excessivement dévastatrice parce que la traite européenne portait sur des hommes en état de travailler pour les plantations, sur les plantations du Nouveau Monde. La traite musulmane portait, elle, essentiellement sur des jeunes enfants qui devaient être transformés en eunuques. Et la mortalité était de 7 pour 1 qui survivait. Et également pour la domesticité et pour les harems. Donc c'est une traite qui a été excessivement consommatrice en vies humaines. Et cette traite a été stoppée par la colonisation. Mais dans le cas de la traite musulmane, nous avons affaire au même phénomène que pour la traite européenne. Ce sont des Africains noirs qui vendaient d'autres Africains noirs aux musulmans, aux arabes. Alors, dans ce domaine-là, il serait tout de même temps de voir les choses en face. Il est bien évident qu'il n'est pas question ici de dire que la traite des esclaves n'a pas existé. Mais il est question de dire que si elle a existé, il y a eu des partenaires et que ces partenaires avaient un intérêt commun et que s'il y a un acte d'accusation qui est dressé, eh bien, dressons-le jusqu'au fond, cet acte d'accusation. Très bien. Ouvrons le dossier. Traitons le dossier à fond et faisons passer devant la censure internationale de Mary Robinson, mais quand Madame Robinson, commissaire européen, parle, avec sa voix d'illuminé baptiste, on a l'impression que Dieu lui est tombé sur la tête. On l'imagine au milieu du désert, recevant les tables de la loi de l'antiracisme et dressant l'acte d'accusation de l'Europe. C'est un comportement abject de masochisme, abject d'autoflagellation. C'est véritablement l'illuminé baptiste qui parle. L'avez-vous observé à la télévision? Regardez-la. Et fermez les yeux, vous imaginez que vous êtes dans un temple noir de l'Alabama. On attend ensuite les happy clappy qui vont taper des mains et qui vont se mettre à chanter des gospels. C'est exactement cela, cette culpabilisation, cette accusation abjecte, dégoûtante, vociférante, gluante, dégoulinante de bons sentiments qui révulse tout être normal, tout être normalement constitué. Et encore plus le scientifique. Alors donc, cette Mary Robinson et cette conception européenne flageolante et flagellante et autoflagellante apporte bien entendu des munitions à ce courant tiers-mondiste. Ce courant tiers-mondiste qui est totalement coupé de la réalité scientifique. Alors si l'on veut parler de la traite, parlons-en. Alors que l'on convoque les descendants des tribus béninoises qui ont vendu les millions d'esclaves, que l'on convoque les descendants des habitants de la ville de Bénin, que l'on convoque les descendants d'El Hadjomar, que l'on convoque les descendants de Samory, que l'on convoque l'ensemble des Émirats musulmans qui partent depuis le Sénégal jusqu'au lac Tchad, que l'on convoque les descendants de Rabat, que l'on convoque les Libyens sénoucistes, que l'on convoque le sultan du Maroc parce qu'il avait une garde noire, que l'on convoque l'ensemble de l'humanité.
Les Toubous du Tibesti par rapport aux Noirs du
sud
du Tchad.
Ouais. Mais oui, j'irai encore plus loin. Je travaille en ce moment sur les Mamelouks. Je m'intéresse beaucoup aux Mamelouks en ce moment. Nous verrons pourquoi dans quelques mois. Et à ce moment-là, dressons l'acte d'accusation de la Turquie. Dressons l'acte d'accusation de la Syrie. Parce que combien de dizaines, de centaines de milliers d'enfants blancs caucasiens du Caucase et de la mer Noire ont-ils été enlevés pour devenir mamelouks? Et puis, continuons. Combien d'enfants grecs, combien d'enfants serbes, combien d'enfants chrétiens bulgares ont-ils été enlevés pour servir de janissaires, esclaves dans l'armée? Et puis allons plus loin. Et les Chinois, qu'ont-ils fait, les Chinois? Non, c'est une plaisanterie. Il n'y a qu'une seule réponse à faire à ces gens-là, le mot de Cambronne. Et l'argumentation scientifique qui suit. Je suis partisan toujours... La caresse après tout de même. Le mot de Cambronne et l'argumentation scientifique. Cela suffit. Voilà donc ce que l'on pouvait dire là-dessus, mais l'on reviendra à fond sur cette étude parce que nous ferons un dossier complet sur la question. Alors, dernier mot, concernant cette traite. Il faut bien voir que la grande idée des tiers-mondistes est de dire si l'Europe a fait sa révolution industrielle au XVIIIe siècle, pour certains pays et au 19e pour d'autres, c'est grâce à la traite des esclaves. En fait, si l'Europe s'est enrichie, c'est en pillant l'Afrique. Et si l'Afrique aujourd'hui en est dans la situation qui est la sienne, c'est parce qu'elle a été deux fois pillée. Une première fois par l'esclavage, qui l'a vidée de sa population, et une deuxième fois par la colonisation, qui lui a pillé ses richesses. La réponse est très simple. Si véritablement l'Europe avait tiré sa richesse de la traite des esclaves, et si la révolution industrielle européenne s'était faite en raison de cette exploitation, eh bien, où se serait produite cette révolution industrielle? Au Portugal, à Bordeaux, à La Rochelle et à Nantes, qui étaient les centres d'exploitation des esclaves. Eh bien non. La révolution industrielle s'est produite à Birmingham, elle s'est produite en Lorraine, elle s'est produite en Alsace, elle s'est produite dans la Ruhr. Elle s'est produite là où il y avait du charbon, là où il y avait du fer, là où il y avait la main-d'œuvre européenne, et non pas avec la traite des esclaves. Je vais encore plus loin. Si la richesse européenne se mesurait à l'aune de l'exploitation coloniale, le pays le plus riche en Europe devrait être le Portugal, puisque le Portugal a été la première puissance coloniale, et puisque le Portugal est resté la dernière puissance coloniale jusqu'en 1975. Or, le Portugal, jusqu'à ces dernières années, était le tiers-monde de l'Europe. Et toutes les nations européennes qui avaient eu le malheur de conserver leurs colonies étaient dans le peloton de queue. Alors que les puissances européennes qui avaient eu la chance de ne pas avoir de colonies ou de les perdre tôt, comme l'Allemagne en 1914-1918, étaient dans le peloton de tête. Alors là, puisque l'on parle d'économie, puisque l'on manie le paradoxe, manions-le jusqu'au bout et étudions cette direction de recherche. J'affirme que les colonies ont été une ruine pour les nations européennes et que les colonies ont coûté beaucoup plus cher que ce qu'elles ont rapporté. Et deuxièmement, que l'esclavage a été un partenariat moralement condamnable, peut-être, même certainement, qui a lié des négriers européens et des peuples africains et qu'une partie de l'Afrique a vendu l'autre partie de l'Afrique. Alors cessons de nous battre la coulpe et cessons cet acte d'accusation contre l'homme blanc qui commence à nous fatiguer.
Alors à ce propos, et pour revenir sur cette question, pour la développer, je signale à nos auditeurs que le 18 octobre prochain, l'Association pour l'Histoire organise une conférence qui sera assurée par notre ami Bernard Lugan sur le thème de l'histoire politiquement correcte de l'Afrique, conférence au cours de laquelle il aura l'occasion de revenir sur toutes les idées reçues actuelles et sur toute la culpabilisation qu'il vient d'évoquer à propos de la colonisation, à propos de la traite négrière ou à propos de toute l'idéologie que nous avons évoquée récemment représentée par Martin Bernal sur l'afrocentrisme. Donc le 18 octobre place Saint-Germain-des-Prés dans les salons de l'industrie que nos auditeurs connaissent bien à partir de 20h30.
Oui, nous rappellerons cette conférence lors de notre prochaine émission
qui a lieu la veille le 17 octobre.
Nous pouvons déjà demander à nos auditeurs de ne pas arriver en retard parce que la salle est petite et il risque que les auditeurs prennent leurs précautions et ceux qui arriveront en retard n'auront sûrement pas de place. Donc venez tôt. Des questions, Victoria ?
Il serait bon de rappeler le rôle du cardinal de Lavigerie, fondateur...
Non, pas de Lavigerie.
Pas de Lavigerie tout court. Fondateur en Afrique de l'Ordre des Pères Blancs.
Oui, l'ordre des Pères Blancs, bien sûr, le cardinal Lavigerie qui a fondé, non pas les Pères Blancs, mais les missionnaires d'Afrique, que l'on a appelé les Pères Blancs, qui a fondé cet ordre destiné non pas tellement à lutter contre l'esclavage, mais à lutter contre l'islamisation, donc contre l'esclavage, qui était destiné au départ à réévangéliser l'Afrique du Nord, et cet ordre des Pères Blancs, qui a totalement échoué dans les pays musulmans, un échec complet, à la fois en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest, et qui en revanche, a réussi d'une manière tout à fait extraordinaire en Afrique de l'Est. Et les Pères Blancs ont été à la pointe de la lutte contre l'esclavagisme zanzibarite, et c'est eux qui ont évangélisé toute l'Afrique de l'Est, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, et jusqu'au Malawi. Et ils étaient tout à fait organisés et tout à fait aptes à mener cette lutte contre les esclavagistes zanzibarites. Et c'est eux qui, en quadrillant l'espace, c'est eux qui, en allant là où personne n'était allé avant eux, ont permis de lutter contre cette traite orientale. Et c'est en ce sens que le cardinal Lavigerie et les Pères Blancs ont eu un apostolat tout à fait intéressant, tout à fait important. On peut dire que les Pères Blancs sont à l'origine de l'élimination de plus de 80% de la traite en Afrique orientale. D'autres questions?
Un auditeur nous dit: je suggère de faire un rapport complet avec chiffres, etc., et de les distribuer aux présidents, ambassadeurs et organismes de ces États. Ils doivent balayer devant leurs portes avant de nous poursuivre.
Ben, le prochain numéro de l'Afrique réelle fera l'état des lieux sur la question, et on pourra l'envoyer s'il y a des mécènes aux chefs d'État et aux délégations.
Il faut absolument faire un livre sur tout ce que vous dites aujourd'hui.
Ah ben ça, je l'ai fait, le livre existe. Il s'appelle Afrique, l'histoire à l'endroit, et je l'ai publié en 89. Autrement, ce lecteur n'a qu'à s'abonner à l'Afrique réelle, et tout ceci est régulièrement mis à jour dans la revue. Mais ce livre a été publié en 89 chez Perrin, Afrique, l'histoire à l'endroit.
La traite esclavagiste continue encore au Soudan, notamment bien avant la traite des Noirs vers l'est de l'Afrique. Il y a eu,
oui, nous
il
allons y parler. Avait je vous arrête parce que nous allons, c'est le deuxième point d'actualité que nous allons aborder avec Philippe Conrad tout à l'heure.
En République islamique de Mauritanie, l'esclavage est toujours pratiqué. Nous sommes coupables d'avoir acheté des esclaves alimentant cette industrie, comme nous sommes actuellement coupables d'acheter des produits chinois fabriqués par les esclaves des camps de travail.
Plus d'autres questions?
Pour le moment.
Bien. Sur cette question de l'esclavage, disons donc que ceci n'est qu'une approche, et nous consacrerons une émission au sujet vers la fin de l'année, peut-être ou en novembre ou en décembre. Alors, un autre point qui nous rapproche un peu de ce sujet, c'est...
Oui, pour faire la liaison avec cette question de l'esclavage, on peut évoquer évidemment la situation du Soudan, où les populations du sud de ce pays sont souvent razziées et réduites en esclavage par le régime islamiste de Khartoum. Dans les populations d'Inka, Nuer, qui étaient déjà au XIXe siècle visées par les rabatteurs venus de Zanzibar, et pour elle le cauchemar continue. Alors qu'en est-il cette situation du Sud-Soudan où la guerre continue, on le sait, depuis pratiquement l'indépendance, depuis une quarantaine d'années maintenant. Il y a eu une courte trêve, je crois, entre 1984, je crois, et puis au début des années 90, la lutte a repris.
Oui, alors ce problème du Soudan est tout à fait intéressant. C'est une très bonne transition avec ce que nous venons de dire sur l'esclavage, parce que nous sommes là en présence véritablement de la poursuite d'un phénomène séculaire. Un phénomène séculaire qui est le suivant: il y a deux Soudans. Il y a un Soudan du Nord qui est désertique, blanc et musulman, et il y a un Soudan du Sud qui est humide, africain et noir. Ce Soudan du Sud qui est humide, africain et noir est peuplé par des populations donc noires qui sont à majorité animistes ou chrétienne. Il n'y a quasiment pas de musulmans parmi cette population. Et depuis des siècles, l'islamisation qui s'est produite depuis le nord de l'Égypte pousse vers le sud. Et cette islamisation s'est produite sur la très longue durée, parce que en 645-46, lorsque les premiers conquérants arabes prennent le delta du Nil, toute l'Égypte est chrétienne. Il ne faut tout de même pas oublier que l'Égypte est en totalité chrétienne. Même s'il y a eu des problèmes entre les diverses églises orientales, même s'il y a eu des problèmes qui ont amené à des schismes, ces populations sont chrétiennes, à 100% chrétiennes. Et l'islamisation de l'Égypte va se faire du nord vers le sud. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les musulmans égyptiens descendent de chrétiens égyptiens. Il n'y a pas eu de changement ethnique dans la population égyptienne, car les Arabes qui se sont installés en Égypte ont été très peu nombreux. Quelques tribus, mais peut-être 1 à 2% dans la population de l'Égypte. Il y a une remarquable stabilité depuis l'époque pré-pharaonique dans la population égyptienne. L'Égyptien, le fellah égyptien ou l'habitant du Caire est le même que celui qui travaillait pour l'édification des pyramides ou que celui qui allait à la messe quand l'Égypte était chrétienne jusqu'au 7e siècle. Donc, une remarquable permanence. Donc aujourd'hui, les Égyptiens musulmans sont les descendants des chrétiens. Cette idée doit toujours être à notre esprit. Ceci est important. Et l'islam a donc conquis le nord de l'Égypte et a très rapidement conquis l'Égypte jusqu'à la première cataracte, jusqu'à la hauteur d'Assouan à peu près. Et cette zone est musulmane presque en grande majorité dès le 9e siècle. Vont subsister bien sûr les Coptes, qui aujourd'hui représentent encore entre 10, 12, 15% de la population, qui ont tendance à régresser et qui sont les descendants de la majorité chrétienne. Attention, il n'y a pas ethniquement une différence entre l'Égyptien copte et l'Égyptien musulman. Ce sont les mêmes, ce sont des Égyptiens. Les uns ont eu leurs ancêtres qui se sont convertis à l'islam et les autres sont restés chrétiens. Mais ce sont les mêmes populations. Et au sud de la première cataracte, au sud d'Assouan, existaient trois royaumes chrétiens. Trois royaumes chrétiens qui étaient les royaumes chrétiens nubiens et qui avaient pour nom le royaume Nobad, le royaume de Makouria et le royaume d'Alodia, le royaume d'Alada. Et ces trois royaumes ont résisté très longtemps à la poussée musulmane. Plusieurs fois, ils ont repoussé les musulmans et ils vont résister pour les derniers jusqu'au XVIe siècle. Et c'est au XVIe siècle que nous voyons véritablement disparaître les derniers royaumes chrétiens de Nubie. La cathédrale de Pharas s'est transformée en mosquée, et le dernier roi chrétien de ce royaume se convertit à l'islam. Et au XVIe siècle, il n'y a plus de chrétienté dans ces régions. Mais au sud, les populations noires, elles, sont encore païennes. Elles n'ont pas été touchées par le mouvement de christianisation. Et à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, la poussée égyptienne musulmane va se faire vers le sud, tout simplement parce que les Égyptiens recherchent les esclaves, mouvement qui va être amplifié au XIXe siècle par Mehemet Ali, le grand sultan Mehemet Ali, qui est un Albanais, qui devient sultan d'Égypte, qui fonde la dynastie égyptienne moderne, contemporaine, et qui ne veut plus dépendre uniquement de ses soldats albanais qui sont par trop indisciplinés et qui veut se constituer une armée noire et qui développe la traite de façon à faire venir en Égypte des jeunes esclaves noirs pour constituer une armée. Et le mouvement de traite se développe, et il se développe aux dépens de qui ? Des populations du sud de la Nubie, ces populations qui aujourd'hui luttent contre le gouvernement soudanais. Et ces populations sont en phase d'extermination quand se produit la colonisation. Et ce sont les Anglais qui vont sauver ces populations du Sud-Soudan, ces Dinka, ces Nuer, etc. Et les Britanniques, dans leur grande clairvoyance, dans leur immense sagesse coloniale, car les Britanniques, à la différence des Français, n'étaient pas des assimilationnistes. Les Britanniques avaient compris les populations avaient compris ce que le maréchal Lyautey lui avait compris de son côté aussi, hein, que ces populations étaient différentes les unes des autres. Et les Britanniques, dans leur immense intelligence coloniale, ont isolé le sud du Soudan du nord du Soudan. Car ils savaient que les populations noires du sud du Soudan étaient très vulnérables et qu'il fallait les protéger contre la poussée musulmane du nord. Et ils ont créé le district du Sud-Soudan avec interdiction à tout musulman d'y pénétrer, interdiction de la langue arabe, interdiction de la religion musulmane. Et ils ont fait venir les missionnaires catholiques. Et ces missionnaires catholiques ont converti une grande partie de cette population. Mais c'est très récent. Ça date de la toute fin, même pas la fin du siècle dernier. Ça date de la période des années 1910-1920. Et ces populations ont été en partie converties, à 50% environ. Les autres sont encore païennes. Et lorsque l'indépendance a approché, quel était le problème ? Les Égyptiens menaient une campagne nationaliste contre les Britanniques. Alors que les Soudanais n'avaient pas cette hostilité anti-britannique qu'avaient les Égyptiens. Qu'ont fait les Britanniques ? Ils ont détaché le Soudan de l'Égypte, donc le condominium anglo-égyptien a été supprimé, et pour faire la nique aux Égyptiens, les Britanniques ont donné une autonomie interne aux Soudanais, au Soudan. Cela voulait dire, pour les Égyptiens, qu'il n'était pas possible d'espérer constituer un grand pays sur l'ensemble de la vallée du Nil par l'absorption du Soudan. Et lorsque le Soudan devient indépendant, eh bien, les Britanniques partent. Et quand les Britanniques partent, que se passe-t-il ? Eh bien, la loi britannique saute. Et c'est une nouvelle loi qui s'applique, la loi soudanaise. La loi soudanaise qui va permettre, du jour au lendemain, la reprise de l'expansion musulmane vers le sud, dans le mouvement séculaire de conquête musulmane vers le sud. Éclate tout de suite, nous sommes dans les années 1960, éclate tout de suite la première guerre du Sud-Soudan. La révolte dite des Anyanya, qui va durer des années. Et puis il y a une trêve, et puis une deuxième guerre, et puis une troisième guerre. Et aujourd'hui, la situation en est là. L'on se bat toujours dans le Sud-Soudan. Avec, en plus, venant compliquer la situation, la découverte de fabuleuses richesses pétrolières. Car le Sud-Soudan, qui est totalement différent du Nord-Soudan au point de vue géographique et au point de vue anthropologique et au point de vue ethnique, ce Sud-Soudan est en plus une zone qui recèle de grandes richesses pétrolières. Ce qui fait que tout est là pour la complexité de la chose et nous sommes, bien entendu, face à un problème qui est tout à fait insoluble dans l'état actuel des choses. Voilà donc ce qu'on peut, on peut dire de la situation soudanaise, avec une guérilla qui n'en finit pas, en dépit des moyens considérables qui sont employés par le gouvernement soudanais du Nord, elle n'en finit pas. Mais le paradoxe est de bien voir que dans la longue durée historique, les Soudanais du Nord, qui aujourd'hui sont des musulmans que l'on dit qualifierait
d'intégristes,
entre guillemets, je n'aime pas ce mot d'intégriste, ça ne veut rien dire.
Islamistes.
Oui, des fondamentalistes ou islamistes, ce sont d'anciens chrétiens. Il faut bien voir que ces musulmans de Khartoum sont d'anciens chrétiens, convertis depuis le 15e, 16e siècle à l'islam. Et que les chrétiens noirs du Sud, eux, sont d'anciens païens récemment convertis à l'islam.
Non, au christianisme.
Pardon. Au christianisme. Vous êtes bien sur Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Serge de Becquetch, dirigé ce soir par Bernard Lugan. Victoria, des questions d'auditeurs ?
À propos du Sud-Soudan, d'où je viens, beaucoup de chrétiens sont vendus par les chrétiens. Aujourd'hui même, les États-Unis ont entrepris une démarche de conciliation entre les Noirs du Sud-Soudan. En effet, le gouvernement soudanais vient d'accorder des licences d'exploitation pétrolière aux compagnies américaines. Quant à affirmer benoîtement que le marchandage d'esclaves est le seul fait des musulmans me paraît relever du procès d'intention, il suffit d'aller sur place.
Oui, le problème, cela dit, on n'a pas tort. Le problème est que les populations nilotiques sont divisées entre elles. Et c'est pour cela qu'elles n'ont pas réussi à libérer le Sud-Soudan, car le Sud-Soudan n'existe pas. Ce Sud-Soudan est peuplé par des populations nilotiques qui sont divisées en 40 ou 50 tribus qui sont profondément rivales et qui sont en guerre les unes contre les autres. Et ce n'est que par moments très fugaces que l'unité se fait. Et chaque fois que l'unité se fait, l'armée soudanaise recule de parfois plusieurs centaines de kilomètres et immédiatement les Soudanais réussissent à acheter tel ou tel chef de tribu qui se retourne contre ses alliés et ce qui permet à l'armée soudanaise de revenir. Donc cet auditeur a à la fois raison et tort, mais l'esclavage qui se fait dans la région est un esclavage qui est un esclavage fait par les musulmans. Ce ne sont pas les missionnaires chrétiens qui vendent des esclaves, que je sache. Ou alors, véritablement, mes renseignements sont partiels.
Félicitations à Bernard Lugan de remettre les choses en place concernant l'esclavage, car il commence à nous bassiner avec cela. Ils oublient de dire qu'actuellement, l'esclavage existe toujours en Afrique. Les États-Unis, le Japon et l'Allemagne n'ont pas de colonies et sont les premiers États économiques du monde, ainsi que la Corée du Sud.
À l'époque du boom européen, la Hollande qui a eu la chance de perdre ses colonies en 1946, la Suède qui n'en avait pas, la Suisse, l'Allemagne qui a eu la chance de perdre les siennes en 1918, étaient les principales puissances européennes. Et les puissances coloniales étaient à la traîne. La France, le Portugal, l'Espagne, l'Italie. Et voilà, c'est très clair. Alors, si l'on nous dit que les colonies, et l'Angleterre, si on nous dit que les colonies ont enrichi les puissances coloniales, alors où est passé l'argent ?
Parlez-nous un peu des périodes où les pirates venaient écumer les côtes européennes et qu'ils emmenaient chaque année près de 50 000 esclaves catholiques qui étaient vendus sur les marchés d'Afrique.
Et il a même fallu créer des ordres, les pères de la merci, pour aller les racheter, bien entendu. Nous savons l'histoire des captifs chrétiens en Maroc et de l'échec de l'alliance entre Moulay Ismaël et Louis XIV à propos de ce non-rachat des captifs. Nous connaissons très bien cette histoire. Là encore, nous pourrions en parler. Alors, parlons également, traduisons au tribunal international l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Libye, parce qu'ils ont radié l'île de Porquerolles et l'île de Palma de Majorque. Non, on n'en finit plus. Cet acte d'accusation permanent commence à fatiguer. Il va falloir le mot de Cambronne, ça va s'imposer de plus en plus.
En France, en 650, la reine Bathilde a supprimé l'esclavage. Voir le livre d'Origine Pernoud, quoi qu'en disent les farfelus qui en tiennent pour la date de 1850. Quelqu'un vous demande... Quel est le jour et l'heure de votre conférence, parce qu'ils ne l'ont pas noté?
Oui, Philippe Conrad.
Alors, c'est le 18 octobre à 20h30. C'est dans les salles de l'industrie qui se trouvent place Saint-Germain-des-Prés, 4 place Saint-Germain-des-Prés, plus précisément dans la salle Chaptal. Le 18 octobre à 20h30.
À 20h30, oui. Dans quel arrondissement?
Là, c'est le 6e arrondissement.
6e arrondissement, oui.
Place Saint-Germain-des-Prés. Oui.
Très bien. Pas d'autres questions, Victoria?
Pour le moment, non.
Écoutez, moi je propose que nous arrêtions là la partie africaine, parce que nous avons suffisamment parlé et il y a de longs développements à faire concernant la suite de l'émission. Nous en parlerons une autre fois. Que pensez-vous du calme? La Kabylie, non, pas le temps aujourd'hui de parler de la Kabylie, nous avons longuement parlé. Le dom-tom non plus, c'est hors sujet. Nous allons parler maintenant de l'opération Barbarossa. Alors, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent retrouver ce que je viens d'exposer concernant la traite des esclaves et le procès de la colonisation dans les numéros de l'Afrique réelle, notamment le numéro 30 de l'Afrique réelle qui est consacré précisément à la culpabilité coloniale. La culpabilité coloniale en question, nous avions fait un dossier de la question. Et le prochain numéro de l'Afrique réelle qui sera consacré à cette question de la traite. Qu'en est-il de la traite? Les chiffres, la réalité, les fantasmes, qui a fait quoi et pourquoi nous n'avons pas à nous battre la coulpe. Numéro qui sortira à l'automne. L'Afrique réelle, je rappelle l'adresse, boîte postale numéro 6 03 140 à Charroux. Boîte postale numéro 6 03 140 à Charroux et l'abonnement pour les 4 numéros de l'année est de 380 francs. Je n'ai pas encore calculé le prix en euros. Je le ferai le dernier jour, à la dernière heure, à la dernière seconde et à la dernière fraction. Une petite pause musicale. Chers auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Serge de Beketch, dirigé ce soir par Bernard Lugan. Nous avons de nombreuses questions, de remarques d'auditeurs, donc avant de passer à la suite de cette émission, je voudrais donner la parole aux auditeurs. Un auditeur qui voit toute une série de remarques et qui nous dit fort justement, la révolution industrielle américaine s'est faite dans le nord-est et non dans le sud des plantations où étaient les esclaves. C'est une remarque de bon sens, mais qui est tellement de bon sens qu'elle échappe à Madame Robinson, qui préfère entendre les voix du Seigneur lui tomber telle l'étape de la loi antiraciste. Victoria.
Un auditeur nous dit ce que vous assurez concernant les Anglais du Sud-Sudan est totalement faux, puisqu'ils avaient cédé en face des armées d'Al-Mahdi, qui a failli battre les Anglais. Concernant la poussée de l'islam dans le Sud, elle ne fut jamais arrêtée par les Anglais, mais s'est essoufflée d'elle-même, grâce à la présence anglaise.
enfin cet auditeur ne connaît pas son histoire, parce que j'ai donné très précisément les dates de la plantation des Anglais. Les Anglais finissent d'écraser les troupes du Mahdiste en 1897-1898. Et c'est l'opération, dans la suite, il y a Fashoda. Hein. Et tout en poussant vers le sud, ils arrivent, et les Britanniques, le général Kitchener arrive à Fashoda. Il est bien évident que les Anglais ne pouvaient pas arriver dans la région du lac Albert avant d'être passés par Fashoda et avant d'avoir auparavant écrasé les Mahdistes. Donc Kitchener écrase les Mahdistes à Omdurman, à Khartoum, et il pousse vers le sud. Et c'est à partir de ce moment-là, 1899-1900, qu'ils prennent possession de toute cette partie de l'Afrique centrale qu'on appelait le Bahr el Ghazal et l'Équatoria, qu'ils rassemblent cette zone avec l'Ouganda et qu'ils font une grande zone contrôlée par les Anglais. Et c'est en 1902-1903 qu'ils séparent la partie sud de la partie nord, interdisant aux musulmans d'y rentrer. Alors avant de dire que ce que je dis est faux, cher auditeur, apprenez votre histoire. Merci. Philippe Conrad.
Nous abordons.
Nous allons maintenant passer sur le deuxième point de l'émission. Alors, ce deuxième point de l'émission est un point très important parce que il s'inscrit dans le cadre d'une série que nous avons consacrée à la Seconde Guerre mondiale. Nous avons commencé par Pearl Harbor, nous avons parlé ensuite des campagnes russo-japonaises, et là, nous revenons maintenant à ce choc de titans qui va s'opérer en Europe, qui va être le phénomène de retournement complet de la Seconde Guerre mondiale, qui va être l'été 1941, la guerre germano-soviétique. Alors la question que je voulais vous poser, à vous Dominique Venner, qui avez écrit de nombreux ouvrages consacrés à la question, et à vous Philippe Conrad, qui également avait publié de nombreux articles et publications consacrées à ce sujet, la première question que je voulais vous poser, c'est la suivante. Après la signature du pacte germano-soviétique, en 1939, l'on aurait pu imaginer que la paix allait être scellée et garantie entre l'Allemagne et la Russie. Alors, comment se fait-il que moins de deux ans après la signature du pacte, un peu plus de deux ans après la signature du pacte germano-soviétique, on se trouve face à un conflit germano-soviétique? Les signataires de ce pacte ont-ils été surpris par les événements? Sont-ils fait prendre la main par les événements? Ou au contraire, avaient-ils déjà des idées derrière la tête lorsqu'ils ont signé le pacte en 1939? Philippe Conrad.
Je crois qu'il faut, revenir sur les conditions dans lesquelles a été conclu ce pacte germano-soviétique du 23 août 39 pour comprendre et analyser le développement ultérieur des événements. Les rapports entre la Russie soviétique et l'Allemagne ont été pour le moins assez complexes tout au long de l'entre-deux-guerres. La Russie soviétique, comme l'Allemagne de Weimar d'ailleurs, se sont retrouvés au début des années 20 au banc de l'Europe, expulsés en quelque sorte du concert international. Elles se sont naturellement rapprochées, ça a été la fameuse accord de Rapallo entre Rathenau et Tchitchiaïn de 1922. On sait que derrière cet accord, il y avait un certain nombre de conventions secrètes qui ont permis notamment, pour une part, le réarmement clandestin de l'Allemagne. On sait aussi que Hitler et son mouvement, le parti nazis sont arrivés au pouvoir en 1933 et a priori tout le discours hitlérien était un discours foncièrement anti-bolchevique, nationaliste. Les nazis se souvenaient de ce qu'avait été la révolution spartakiste en 1919 et ils ne manquaient pas une occasion de dénoncer évidemment le péril bolchevique ou le péril judéo-bolchevique, et ce qui s'explique d'ailleurs en partie, il y a une sensibilité particulière à ce péril du fait de la situation géographique d'une Allemagne qui était évidemment beaucoup plus proche de la Russie que l'Europe occidentale, et une Allemagne où, faut-il le rappeler, Lénine prévoyait d'exporter très rapidement la révolution à partir de 1917. Cela dit, cette hostilité idéologique au communisme qui était le fait du nazisme et qui complétait le vieux antagonisme germano-slave, qui complétait la revendication d'un
un espace vital que l'Allemagne entendait conquérir en Europe de l'Est, il faut quand même la nuancer, parce qu'au départ, Hitler prudent, il faut rappeler dans quelle situation est l'Allemagne entre 1933 et 1935, elle est toujours désarmée, elle est complètement isolée sur le plan diplomatique. Hitler prudent, en 1934, va conclure un accord avec l'URSS, qui peut paraître surprenant, étant donné ce qu'avaient été ses discours antérieurs. Donc, jusqu'au milieu des années 30, la nature des relations entre les deux pays apparaît quelque peu fluctuante. 1935 est une année importante, parce qu'à cette époque-là, les soviétiques ont en quelque sorte découvert l'importance du danger fasciste, au sens général du terme. L'international communiste en 1935, à l'appel de Dimitrov, va dénoncer le fascisme rapace allemand comme un ennemi prioritaire. Staline jusque-là et les communistes considéraient que la social-démocratie est un ennemi et un rival surtout bien plus dangereux. Il voyait dans le fascisme en quelque sorte la phase terminale d'une société bourgeoise agonisante. Ils se rendent compte à partir de 1935 qu'il y a un vrai danger et l'Allemagne est ouvertement désignée comme l'ennemi. Et l'antifascisme va devenir à partir de ce moment-là l'un des vecteurs principaux de l'expansion de l'idéologie communiste en Europe. Cela va se confirmer en 1936 qui va voir ce rapprocher, on le sait, l'Allemagne et l'Italie. Ce rapprochement va se concrétiser encore davantage avec la conclusion du pacte anticominterne en 1937. Il apparaît là clairement que l'Allemagne et l'URSS sont dans deux camps antagonistes. De plus, les deux pays soutiennent des camps opposés pendant la guerre d'Espagne, comme chacun sait. Et en 1938, faut-il le rappeler, l'URSS est tenue à l'écart du règlement de la question sudète lors de la conférence de Munich, ce qui a de quoi évidemment inquiéter beaucoup Staline. Et c'est dans ces conditions qu'il faut comprendre comment Staline, inquiet de voir se constituer de fait une sorte d'entente à quatre en Europe occidentale, à partir des accords de Munich entre la France, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie, comment Staline commence à évoluer, alors qu'il comptait sur un gouvernement de front populaire français pour mener une politique antifasciste style Allemagne tout à fait vigoureuse. La manière dont se termine la conférence de Munich, évidemment, a de quoi l'inquiéter. Et il craint, par-dessus tout, que les puissances occidentales ne se mettent d'accord sur son dos, et que la France et l'Angleterre, notamment les démocraties parlementaires occidentales, s'accommodent finalement très bien d'une guerre entre l'Allemagne et l'URSS, guerre dont les origines idéologiques paraissent tout à fait évidentes, une guerre qui aura évidemment beaucoup de mal à soutenir seule. Et c'est dans ce contexte qu'on peut replacer l'évolution qui va conduire l'URSS à la signature du pacte d'août 1939, qui a été évidemment un coup de tonnerre, qui a surpris évidemment tout le monde, à commencer par bon nombre de communistes qui faisaient profession d'un antifascisme très très vigoureux au cours des années précédentes. En fait, Staline va faire ce choix parce qu'il va y trouver évidemment des intérêts. D'abord, une entente avec la France et l'Angleterre, entente que cherchent ces pays au printemps 1939, après l'arrivée des troupes allemandes à Prague le 15 mars 1939, Neville Chamberlain, suivi bien sûr par la France, entend maintenant barrer la route aux nouvelles initiatives hitlériennes. Et dans ce contexte-là, Français et Anglais cherchent l'accord des Soviétiques. Seulement, qu'est-ce que peuvent promettre aux Soviétiques les Français et les Anglais? En fait, pas grand-chose. Ils veulent une grande alliance de revers, qui viennent renforcer leur allié polonais, mais ils ne peuvent pas récompenser Staline en quoi que ce soit. En revanche, si Staline trouve un accord, un compromis, même s'il n'est que passager avec l'Allemagne, il peut espérer marquer des points intéressants sur le plan territorial, éventuellement un partage de la Pologne entre l'Allemagne et l'URSS, la récupération des trois républiques baltes, dont les territoires faisaient partie de l'ancien empire russe, la récupération de la Finlande, la récupération de la Bessarabie, dont s'étaient emparés les Roumains à la faveur de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut replacer la signature du pacte, d'autant que Hitler, lui, de son côté, évidemment, a tout intérêt au moment où il s'attaque à la Pologne et où il peut craindre, évidemment, une réaction de la France et de l'Angleterre, a tout intérêt à ne se battre que sur un front, puisque l'affaire polonaise va être réglée en quelques semaines. L'Allemagne, c'est quand même sa grande hantise, souhaite éviter de se battre sur deux fronts, comme c'était le cas pendant la Première Guerre mondiale. Un pacte avec Staline, évidemment, écarte et conjure ce danger. Quant au dictateur soviétique, lui, eh bien, il pense que tout cela, ben, c'est du temps gagné pour lui. La guerre commence entre l'Allemagne et les démocraties occidentales. C'est très bien qu'ils s'étripent entre eux, qu'ils s'affaiblissent entre eux. Et lui, pendant ce temps-là, va gagner un temps précieux pour se préparer pour la suite, pour disposer d'une armée rouge susceptible de venir, en quelque sorte, jouer les arbitres dans le conflit européen qui s'annonce.
Alors, quel est l'avantage de ce pacte, pratiquement, pour l'Allemagne et pour l'Union soviétique? Vous venez dire que pour l'Union soviétique, il est territorial, car l'Union soviétique récupère les terres russes qui lui avaient été arrachées après Brest-Litovsk.
Voilà.
Bien. Et l'Allemagne.
Lors de la conférence de la paix, on sait comment l'Union soviétique avait perdu une partie de la Pologne après la guerre russo-polonaise de 1920-21. On sait comment les pays baltes étaient devenus indépendants, etc. Donc les soviétiques considèrent que sur le plan territorial, ils ont intérêt à récupérer ces pays-là. D'autre part, pour ce qui est du cas de l'Allemagne, bien sûr, elle va gagner des territoires, à savoir la majeure partie de la Pologne dans cette affaire. Et puis surtout, l'Allemagne, lors de la signature du pacte germano-soviétique, par un certain nombre de protocoles additionnels, va conclure des accords économiques avec l'URSS, ce qui va lui permettre de contourner ou d'éviter les effets du blocus que les alliés français et anglais vont lui imposer. Les franco-anglais ont l'intention d'établir un blocus comparable à celui qui avait été imposé en 1914, eh bien, dans la mesure où le pétrole soviétique et les produits alimentaires soviétiques vont faire mouvement vers l'Allemagne au cours des mois qui suivent, les effets de ce blocus vont se trouver forcément très limités. Donc les deux partenaires, en août 1939, même s'ils ne sont ni l'un ni l'autre dupes de cet accord, les deux partenaires ont intérêt, pour un temps au moins, à conclure ce pacte.
Économiquement et concernant les importations de pétrole, y a-t-il eu véritablement des livraisons importantes faites par l'Union soviétique ?
Des livraisons qui ont été continuelles jusqu'en juin 1941. Je crois que quelques heures seulement avant le déclenchement de l'offensive Barbarossa, qui a dû démarrer vers 3h30 du matin, je crois, le 22 juin, il y a encore des convois transportant
les trains roulaient vers l'Allemagne.
Voilà, qui roulaient vers l'Allemagne.
Duplicité ou jeu d'échecs complet des deux parties ?
Là, nous en reparlerons.
C'est très important. Je crois qu'aucun des deux, n'est dupe. Nous verrons tout à l'heure ce qu'il faut penser des hypothèses qui ont été formulées concernant le projet stalinien de prendre l'initiative en premier à l'été 41, avant donc le déclenchement de Barbarossa, mais aucun des deux partenaires n'est dupe, pour des raisons idéologiques évidentes. Le communisme, cette espèce de religion séculière porteuse de tous les espoirs que l'on sait, évidemment était totalement incompatible avec l'autre grande idéologie du moment, qui était le national-socialisme, ou les fascismes en général, qui en partie s'étaient formé contre le communisme, contre ce qu'avait représenté quelques années plus tôt dans ces différents pays, l'Italie, l'Allemagne, et le communiste.
Alors je vous pose deux questions maintenant. Que vont faire les Allemands et les Soviétiques du pacte germano-soviétique, et comment la signature de ce pacte est-elle reçue chez les Français et chez les Alliés?
Alors, chez les Alliés, évidemment, ce fut la consternation. On s'attendait pas du tout à une affaire comme ça, d'autant que les Français et les Anglais négociaient à Moscou déjà depuis plusieurs semaines. mais l'arrivée de Molotov aux affaires étrangères a signifié en quelque sorte le renversement qui s'annonçait, et les contacts qui étaient restés tout à fait discrets entre Allemands et Soviétiques donc vont aboutir, on le sait, le 23 août 39. Alors ce que vont faire les deux partenaires de ce pacte, c'est très simple, ils vont chacun récupérer en quelque sorte le produit de ce deal. Les Allemands vont attaquer la Pologne, envahir la Pologne le 17 septembre, donc moins de trois semaines après. Les Soviétiques, devant la rapidité des succès allemands en Pologne, vont eux-mêmes envahir la Pologne et porter le coup de grâce à ce malheureux pays, et récupérer de fait la partie de Pologne qui devait leur revenir selon le partage secret qui avait été prévu lors du pacte germano-soviétique.
Oui, ça a incité très directement Hitler à attaquer la Pologne, parce qu'il avait le sentiment d'avoir les mains libres pour pouvoir régler cette question.
Bien sûr, et surtout de ne pas avoir l'URSS contre lui.
Puisqu'il ne trouvait pas d'accord avec les Polonais, n'ayant plus l'URSS contre lui, et il imaginait que la Grande-Bretagne n'interviendrait pas, et que la France n'interviendrait pas. Donc,
pourriez-vous rappeler quel était le contentieux entre la Pologne et l'Allemagne?
La question remontait donc au traité de 1919. Le contentieux, il est très simple, c'est que le territoire polonais a été constitué en 1919, comme la Pologne n'existait pas avant 1914, avec des territoires qui ont été pris soit à la Russie, Varsovie était russe en 1914, soit à l'Allemagne. Toutes les régions de Poznanie, de Poméranie occidentale, de Silésie, étaient des territoires anciennement allemand. Il y avait eu la fameuse affaire de Silésie en 1921 qui avait fait l'objet d'un vif débat, c'est le moins qu'on puisse dire, entre Polonais et Allemands, avec un jugement finalement léonin de la Société des Nations et des Alliés qui avaient partagé la Silésie alors que le plébiscite avait donné une majorité aux Allemands. Et puis, plus précisément, Hitler, à la veille de la guerre, réclamait que Danzig, qui était une ville à 100% allemande, tout le monde en convenait, mais qui avait un statut de ville libre sous mandat SDN et où la Pologne disposait d'un certain nombre d'avantages commerciaux. Il voulait que Danzig puisse revenir, comme le réclamait le Sénat de Danzig à l'Allemagne. Et d'autre part, il réclamait l'installation dans le fameux corridor de Danzig qui séparait l'Allemagne de la Prusse orientale d'une voie ferrée et puis d'une autoroute bénéficiant d'un privilège d'extraterritorialité. Alors bon, ça c'était les revendications présentées par les Allemands aux Polonais après la fin de la Tchécoslovaquie en mars 39. Bon, ce qui est évident, c'est que Hitler, en fait, souhaitait un refus des Polonais pour pouvoir en finir avec la Pologne, qui pour lui était un État qui n'avait pas de raison d'être.
Dominique Venner.
Oui. Ce que l'on peut dire, c'est que les revendications allemandes initiales étaient assez légitimes à l'égard de Danzig, qui en effet était une ville allemande, et il y avait d'une façon constante des gestes et des comportements hostiles de l'État polonais à l'encontre des populations allemandes qui étaient passées sous domination polonaise au-delà de 1919. Donc ça, en soi, c'était légitime. Mais Hitler voyait plus grand et plus large. Alors aujourd'hui, tout cela semble complètement aberrant, mais dans la perspective de l'époque, il s'agissait de récupérer apparemment des anciennes possessions qui étaient celles de l'Empire allemand, comme la Russie soviétique voulait récupérer des anciennes possessions qui étaient celles de l'Empire russe. L'État polonais était récent, comme l'État tchécoslovaque était récent. Il s'agissait d'États constitués au lendemain du traité de Versailles, par le traité de Versailles, par la volonté des vainqueurs, et pour les puissances vaincues ou pour celles qui avaient été placées à l'écart des bienfaits de la victoire, ce qui était le cas de la Russie, il semblait légitime de récupérer des territoires qui appartenaient depuis longtemps à chacun des deux empires.
Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Serge de Becquetch, dirigé ce soir par Bernard Lugan, avec Dominique Vénère et Philippe Conrad. Et nous parlons de la guerre russo-soviétique et de ses... germano-soviétique, pardon, et de ses origines. Des questions d'auditeurs, Victoria?
Une auditrice vous demande, le livre Les Réprouvés ne parle-t-il pas de cette période de souffrance pour les Allemands?
Oui, oui, parfaitement. Les Réprouvés de Hans von Salomon, qui évoque ses propres aventures au sein des corps francs, évoque tout à la fois les combats des corps francs dans ce que les Allemands appelaient le Balticum, c'est-à-dire les pays baltes, et essentiellement Lettonie. Et par ailleurs, les Réprouvés évoquent le combat des corps francs en Haute-Silésie, pour protéger tout à la fois les populations allemandes, nombreuses, importantes, et faire en sorte que le référendum organisé par la France se passe de façon normale, c'est-à-dire libre. Et leur rôle a été important dans les deux cas, très important en tout cas en Silésie, puisque de cette façon-là, une partie de la Silésie est restée acquise au Reich.
Autre question d'auditeur ou...
Sur la Pologne, vous avez oublié de préciser qu'à l'origine, le royaume de Pologne s'étendait jusqu'à Odessa.
Oui, Philippe Conrad, oui.
Oui, bien sûr. Oui, mais il y a une époque où il y a une grande Pologne qui allait de la Baltique à la mer Noire.
Oui.
Mais c'est cette Pologne-là que voulaient reconstituer les Polonais en 1919-1920. Et c'est comme ça qu'ils sont allés jusqu'à assiéger Kiev, moyennant quoi l'armée rouge les a ramenés à Varsovie. Ensuite, ils ont repoussé les soviétiques. Et finalement, la paix de Riga de 1921 a fixé la frontière à peu près 200 km à l'est des limites ethniques du territoire polonais.
Oui.
Je pensais qu'Hitler avait plutôt souhaité élargir l'espace vital du peuple allemand vers l'est et non vers l'ouest. Oui. Il a écrit « Les Germains doivent reprendre leur marche vers l'est. Ceci explique la faible sévérité des clauses de l'armistice pour la France à la Première Guerre mondiale. »
Il est incontestable qu'en effet, la perspective d'Hitler, mais ce n'est pas du tout en contradiction avec ce que nous avons dit, bien au contraire, la perspective d'Hitler était d'étendre, en effet, ou de trouver plus exactement un espace vital à l'est, donc d'opérer des conquêtes à l'est, au détriment des Polonais éventuellement, de la Russie ou des Soviétiques par ailleurs.
Bien, nous en étions tout à l'heure, avant la coupure musicale, nous en étions au point de l'exploitation faite par les uns et par les autres de ce pacte germano-soviétique. Alors, nous avions vu que les Soviétiques et les Allemands s'étaient partagés la Pologne, mais les Soviétiques vont intervenir dans les pays baltes, ils vont intervenir en Finlande. Quant aux Allemands, ils vont avoir des velléités en direction des Balkans. Philippe Conrad, que se passe-t-il exactement?
Alors, bon, le sort de la Pologne va être réglé, donc on le sait, en moins d'un mois, le 28 septembre, c'est-à-dire quelques semaines seulement après le pacte germano-soviétique, allemand et soviétique se mettent d'accord sur le partage donc de la Pologne, mais les Soviétiques vont mettre à profit la période pour commencer à imposer leur volonté à certains petits pays qui étaient prévus comme devant leur revenir dans le partage, notamment les trois pays baltes qui vont être contraints de signer des accords de défense dont on imagine le contenu avec les Soviétiques dès 1939. Ensuite, les Soviétiques pendant l'hiver 1939-40 vont s'engager dans une tentative de reconquête de la Finlande qui aboutira d'ailleurs à un échec, à la surprise générale du fait de la très belle résistance de la petite armée finlandaise. La Finlande réussira, malgré quelques concessions territoriales au mois de mars 1940, à préserver quand même son indépendance. Et puis alors ensuite, au cours de l'année 1940, les Soviétiques, quand ils verront surtout la rapidité avec laquelle la France va s'effondrer au mois de mai-juin 40, vont précipiter un petit peu les choses pour prendre des atouts, prendre des gages suffisamment vite, et notamment ils vont imposer en fait aux pays baltes la perte de leur indépendance, puisque ceux-ci vont être annexés par l'URSS à travers
travers des élections, évidemment, dont on imagine les conditions dans lesquelles elles se sont déroulées. Et donc, Lituanie, Lettonie, Estonie vont devenir des républiques soviétiques, et il va en être de même de l'ancienne Bessarabie, qui va devenir la République soviétique de Moldavie, que la Roumanie, la malheureuse Roumanie, sous la pression soviétique, va être obligée d'abandonner. Alors, les Allemands, eux, de leur côté, vont également pousser leur avantage en direction des Balkans, principalement en direction de la Roumanie, de la Bulgarie d'abord. Les Allemands veulent satisfaire leur allié hongrois. Pour cette raison, ils vont imposer à la Roumanie de remettre à la Hongrie certains des territoires qu'elle avait perdus à l'issue de la Première Guerre mondiale, notamment la Transylvanie. De la même manière, ils vont obliger les Roumains à redonner la Dobroudja à la Bulgarie, et finalement les Allemands vont même occuper le territoire roumain sous prétexte que les gisements de pétrole de Ploiești sont menacés par les Alliés. Et puis au printemps de 1941, ils vont même occuper la Bulgarie. Entre-temps, en effet, les Allemands, les Italiens, les Japonais ont signé le pacte tripartite, et à ce pacte tripartite ont adhéré aussi la Hongrie, la Bulgarie. L'influence allemande donc est en train de se développer dans cette région balkanique, et tout cela, évidemment, ça va entraîner des tensions avec le partenaire soviétique qui, jusque-là, a respecté les clauses du pacte de 1939, mais cette poussée vers les Balkans inquiète évidemment les soviétiques.
N'y a-t-il pas une tentative au plus haut niveau de réamorcer ce rapprochement germano-soviétique?
Oui, c'est le voyage que fait Molotov à Berlin, c'est en novembre, je crois, 1940, pour essayer de trouver une sorte de compromis, une sorte de marchandage général entre les deux pays. Hitler avait laissé entendre qu'après tout, le pacte tripartite n'était pas forcément tourné contre l'URSS, qu'on pourrait construire une espèce de vaste alliance continentale. À un moment, faut-il le rappeler, où seule l'Angleterre continue la lutte. Là, nous sommes dans le deuxième semestre de 1940, donc Molotov vient à Berlin. Seulement, là, on n'arrive pas à se mettre d'accord, parce que les Allemands sont tout disposés à encourager les Soviétiques à pousser leur avantage en direction de la Caspienne, de l'Iran, voire de l'Inde. En revanche, pour ce qui est du domaine des Balkans et pour ce qui est des détroits turcs, là, les Allemands sont intraitables. Donc il n'y a pas d'entente possible, et quelques jours plus tard, en décembre 1940, Hitler prend déjà la décision d'attaquer l'URSS au printemps de l'année suivante.
Donc, nous sommes... À quel mois, dites-vous ?
Début décembre. Il prend la décision, et le plan Barbarossa...
Donc, 4 mois plus tard.
On prévoit le 15 décembre, je crois, que le plan Barbarossa doit démarrer au mois de mai 1941.
La première décision est plus ancienne même que cela, puisque c'est à la fin, c'est dans les derniers jours de juillet 1940, que Hitler, réunissant le plus haut commandement de l'armée allemande, c'est-à-dire le commandant en chef qui est à l'époque le général von Brautich, Jodl et Alder qui est le chef d'état-major de l'armée de terre, de la Heer, leur déclare « Nous devons préparer une campagne contre l'URSS qui commencera au printemps 1941. » Et dès le 9 août, un premier plan d'action est présenté par l'un des généraux de ce qui deviendra l'OKW.
Alors pourquoi ce retard ? Parce que entre le printemps, date initiale de l'offensive, et l'été, ça fait un décalage considérable, et l'on va bien voir quelles sont les conséquences. Que se passe-t-il ?
La raison, ce sont les interventions balkaniques. On sait que en 1940, Mussolini s'est lancé à l'attaque de la Grèce avec le fort peu de succès. Il récidive au printemps de 1941 sans plus de succès, et à ce moment, en Yougoslavie, le régent Paul qui avait avait fait adhérer son pays au pacte tripartite va être renversé par un coup d'État pro-anglais qui a lieu à Belgrade. Et dans ces conditions, Hitler, à la fois pour venir prêter main forte à Mussolini en difficulté sur le front gréco-albanais et pour venir obliger la Yougoslavie à rentrer dans la zone d'influence du Reich, Hitler va décider l'intervention dans les Balkans. On va mener, les Allemands vont mener une blitzkrieg tout à fait spectaculaire en Yougoslavie, en Grèce. Les Allemands vont arriver à Athènes et même ils vont pousser encore plus loin avec la fameuse opération Mercure de conquête de la Crète au mois de mai 1941. Alors c'est encore un succès foudroyant, une victoire supplémentaire pour l'Allemagne qui les additionne depuis 1939. Maintenant le drapeau à croix gammée flotte depuis la Crète jusqu'au Cap Nord. C'est un moment donc qui peut porter à tous les optimismes quant à la suite des événements pour les dirigeants nazis, mais 6 semaines précieuses ont été perdues et qui vont peser lourd ensuite quand les forces allemandes vont se retrouver à quelques dizaines de kilomètres seulement de Moscou à la fin de 1941, car à ce moment-là le général hiver russe va évidemment intervenir pour stopper, geler une offensive qui démarrait plusieurs semaines en amont aurait peut-être permis aux Allemands de s'emparer de Moscou, ce qui aurait eu des conséquences sans doute très très importantes pour la suite de la guerre du fait de la disposition notamment du réseau ferré soviétique. C'était bien plus significatif que ce qu'avait été la prise de Moscou par Napoléon par exemple.
Et pourquoi Hitler n'a-t-il pas reporté d'un an son attaque? Pourquoi n'a-t-il pas laissé passer la fin d'été, la mauvaise saison, l'hiver, et pourquoi n'a-t-il pas attaqué au début du printemps de l'année suivante?
Je crois qu'il pensait que la victoire serait acquise avant l'hiver.
Hitler s'est toujours senti pris par le temps. Ça a été une course permanente contre la montre. Et il avait le sentiment, à tort ou à raison, nous allons en parler d'ailleurs, nous allons examiner cela attentivement, il avait le sentiment...
Nous allons développer ce point après la coupure de 7h30, car il nous reste juste 4 minutes, donc avant d'aborder ce point fondamental. Donc traitons l'ensemble de cette question, achevons cette situation qui précède l'opération Barbarossa, et ensuite nous abordons le fond du problème dans la seconde partie de l'émission, Dominique, si vous le voulez bien.
Oui, Hitler avait le sentiment qu'au printemps 1941, les atouts étaient en sa faveur, et qu'un an plus tard, ce ne serait plus le cas. Il avait le sentiment que l'URSS aurait reconstitué des forces armées vraiment puissantes, ce qu'il ne croyait pas pour 1941. Il pensait qu'inversement, un an plus tard, en raison des efforts immenses, il n'était pas au courant de tout, hein, nous allons en reparler d'ailleurs, les services de renseignement allemands ont été tout à fait défaillants en ce qui concerne l'URSS. Néanmoins, ils savaient des choses. Et ils savaient qu'il y avait un effort tout à la fois d'armement, un effort de production en vue de la guerre, et par ailleurs un effort d'organisation des armées, avec des intentions qui paraissaient tout à fait offensives, et il estimait qu'en 1942, l'URSS aurait eu des forces armées capables de mettre en échec ses propres forces. Et il savait que ses propres forces n'étaient pas illimitées, ce qui est bien vrai. Tout à la fois, la production de guerre allemande avait des limites, et par ailleurs, le recrutement des armées allemandes connaissait des limites qui étaient celles de la population. Et en face, la population russe possédait des ressources potentielles, en tout cas, un potentiel économique et un potentiel démographique considérable.
Bien, nous aborderons la suite de ce point après la coupure. Je voudrais donner la parole aux auditeurs, car nous avons plusieurs questions d'auditeurs qui montrent que nous n'avons pas suffisamment expliqué un point concernant la Pologne. Philippe Corrad, j'aimerais bien que vous reveniez là-dessus. Oui, question d'auditeur.
Oui, on vous dit, vous présentez la Pologne comme un pays constitué après la Première Guerre mondiale, à partir du territoire russe et allemand, mais n'existait-il pas une Pologne très ancienne?
Nous avons plusieurs questions sur ce point.
Donc, oui. Évidemment, la Pologne a été partagée, a été un État important dans le concert européen pendant des siècles, et elle s'est trouvée partagée à la fin du XVIIIe siècle à trois reprises entre ses grands voisins qui étaient la Prusse, la Russie et l'Autriche. Mais bien entendu, la Pologne avait une existence nationale auparavant. Elle avait été à une époque une très grande puissance, puisque nous l'avons dit tout à l'heure, il y a eu une époque où la Pologne s'étendait de la Baltique jusqu'à la mer Noire. Simplement, pendant tout le 19e siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale, il y a toujours évidemment un peuple polonais avec son identité, avec sa religion, avec sa langue, avec son histoire, avec sa mémoire. Mais il n'y a plus d'État polonais. Et les Polonais ont beau se révolter à trois reprises contre la domination russe, ils sont à chaque fois écrasés. Ils ont beau manifester contre l'annexion par la Prusse, eh bien, cela n'y change rien. Il faut la victoire des Alliés en 1918 pour que la Pologne puisse apparaître de nouveau, ce qui était prévu dans les buts de guerre formulés par le président Wilson dès janvier 1918, dans les fameux 14 points, ce qui faisait partie aussi des objectifs des Français et des Anglais.
Oui, voilà. Il y a une nation polonaise bien vivante, très active, qui vit dans le malheur et sans État.
Voilà. Il était important d'apporter ces précisions car nos éditeurs
protestaient.
Oui, bien sûr. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Serge de Bekech, dirigé ce soir par Bernard Lugan. Avec Victoria, avec Dominique Vénère et Philippe Conrad, nous parlons de la guerre germano-soviétique à la suite de la rupture du pacte germano-soviétique et de la préparation de l'opération de Barbarossa et de ses retards. Alors Dominique Vénère, je voulais vous poser une question importante parce que à ce sujet, une importante controverse est née, qui est née de la publication du brise-glace. Alors, que pouvez-vous nous dire de cette controverse?
Oui, grande controverse, qui est née en effet de la publication du livre de Suvorov, qui est un ancien officier du GRU, c'est-à-dire les services de renseignement de l'armée soviétique, qui avait déjà publié un ouvrage intéressant sur l'armée soviétique. Ce Suvorov a travaillé sur les archives soviétiques et il a publié un livre qui a été traduit en langue française en 1989, qui s'intitule « Le brise-glace » et dont la thèse, d'une façon très succincte, je vais y revenir, est que l'attaque allemande contre l'URSS le 22 juin 1941 n'était pas une agression, mais était en quelque sorte une opération préventive pour prévenir une offensive qu'allait déclencher l'armée rouge contre le Reich. Voilà, d'une façon extrêmement succincte, mais je vais revenir.
Guerre préventive.
Je vais revenir sur ce point. Oui. Alors, pourquoi le brise-glace?
Hitler aurait été au courant, donc, d'une manœuvre.
Alors, il ne va pas jusque-là. Suvorov. Mais il reprend, à partir des archives, il reprend l'état des forces soviétiques. Et d'une façon très minutieuse et attentive, et il en tire la conclusion que les forces de l'armée rouge réunies face à l'ouest, forces considérables, était organisée non pas pour la défensive, mais était organisée pour une offensive, dit-il, qui aurait pu se déclencher rapidement. Alors, nous allons examiner les quelques points.
Ce qui est intéressant, c'est que cela apporte de l'eau au moulin du livre de Saint-Paulien.
Oui, mais il y a Souvorov. Bon, Souvorov a attiré l'attention, tout simplement parce que il s'agissait d'un auteur soviétique. Préalablement, plusieurs historiens allemands avaient développé une étude dans ce sens, dont on a moins parlé, puisque on imaginait que, venant de la part d'historiens allemands, ça pouvait être suspect, puisque c'était, ça pouvait être destiné à dédouaner l'Allemagne de cette attaque contre l'Union soviétique. Mais Souvorov a obtenu des soutiens, et qui ne sont pas négligeables, puisque le professeur Jamowski, qui est ancien recteur de l'université de Varsovie, donc un Polonais, qui n'a aucune raison d'avoir de la sympathie pour l'Allemagne, a suivi, en quelque sorte, sa thèse, et l'a même confortée. Alors, nous allons examiner cette thèse rapidement. Pourquoi d'abord ce titre, le brise-glace donné au livre? Eh bien parce que dans les années 30, après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, Staline avait eu ce mot: Hitler sera pour nous le brise-glace, c'est-à-dire qu'il fera sauter la glace qui bloque la révolution mondiale. Et l'idée est que l'attaque allemande contre l'URSS en juin 1941 a permis de tout faire sauter, effectivement de faire sauter d'abord l'Allemagne, et donc a permis ultérieurement à l'URSS de conquérir la moitié de l'Europe avec l'espoir de faire encore mieux et de faire plus. Voilà, c'est ça la logique du livre, du titre du livre, et de cette appellation le brise-glace. Alors, sur quoi repose la thèse de Souvorov et de tous ceux qui ont appuyé cette thèse qui est intéressante et qui mérite d'être tout à fait examinée? Donc, on a compris que dans cette thèse, l'idée est que l'attaque allemande n'aurait fait que anticiper sur une attaque soviétique. Alors, selon toujours cette thèse, les succès allemands, les succès initiaux du printemps et du début de l'été, ou plus exactement les succès de l'été 1941 à partir du 22 juin, ces succès s'expliqueraient essentiellement par la disposition qui était celle des troupes soviétiques. Celles-ci n'étaient pas organisées pour la défensive, mais elles étaient organisées pour une offensive. C'est-à-dire qu'elles étaient massées de façon compacte, prêtes à se ruer, et non pas dispersées derrière des positions défensives. Ça, c'est une première observation. La deuxième observation, apparemment tout ça est exact, effectivement. La deuxième observation, c'est que, sur ordre de Staline, les anciennes fortifications, que l'on appelait la ligne Staline, qui correspondaient aux anciennes frontières soviétiques, ces anciennes fortifications avaient été démontées, donc il n'y avait plus d'organisation défensive, et elles n'avaient pas été remontées 200 ou 250 kilomètres vers l'ouest, puisque Philippe Conrad nous l'a expliqué très clairement tout à l'heure, à la suite du pacte germano-soviétique et de la victoire commune de l'Allemagne et de l'URSS contre la Pologne et de leur entente, les deux complices s'étaient distribués les territoires de l'Est au bénéfice de l'URSS, les États baltes, toute une ligne de territoire polonais, et cela jusqu'en Bessarabie. Ce qui fait que les frontières de l'URSS, à la suite de ce gain territorial, s'étaient retrouvées reportées de 200 ou 250 km, suivant le cas, vers l'ouest. Et les troupes soviétiques se trouvaient massées, les forces soviétiques, l'armée rouge, se trouvaient massées en un grand nombre de divisions, 177 divisions, se trouvaient massées sur cette nouvelle frontière, en position apparemment offensive et sans système défensif et sans organisation défensive, puisque l'ancienne organisation défensive avait été démonté. Voilà, en gros, quelle est la situation. Nous allons revenir sur certains points plus complètement après. Mais il faut se poser tout de suite une ou deux questions. Quelles étaient, au début de l'été 1941, en juin 1941, quelles pouvaient être les intentions d'Hitler et quelles pouvaient être les intentions de Staline ? Qu'en sait-on aujourd'hui ? Pour autant que l'on le sache. Alors, pour Hitler, oui, on le sait. C'est assez clair, parce que il a eu l'occasion de s'exprimer. Et d'autre part, le monde allemand de l'époque, celui du Troisième Reich, n'était pas du tout un monde opaque comme le monde soviétique. Autant le monde soviétique, l'extérieur n'en connaissait rien, et on ne connaît toujours pas, on est loin aujourd'hui de tout connaître, alors que dès l'époque, Hitler d'abord avait l'habitude d'exprimer de la façon la plus claire ce qu'étaient ses intentions, et d'autre part, les documents circulaient avec une relative facilité. Donc on connaît les intentions d'Hitler, ce qu'elles étaient. Il avait trois intentions en attaquant l'URSS. Et dans ces trois intentions n'apparaît pas, nous allons y revenir aussi, n'apparaît pas apparemment d'intention préventive. Son intention première, qui était une intention immédiate, qui répondait à la situation de l'Europe à cette époque-là et de l'Allemagne à cette époque-là. L'Allemagne, rappelons-le, avait remporté une victoire colossale et inattendue contre la France en juin 1940. Ensuite, le seul adversaire qui restait face à l'Allemagne était l'Angleterre. Hitler, quelle était la position d'Hitler à l'égard de l'Angleterre ? Hitler a toujours eu, il l'a exprimé clairement et longuement dans Mein Kampf, et toute sa politique ultérieure le montre, Hitler souhaitait une entente avec la Grande-Bretagne. Hitler ne voulait surtout pas de guerre avec la Grande-Bretagne. Il était convaincu, pour des raisons qui peuvent parfaitement s'expliquer, il était convaincu que contre la France, ennemi héréditaire, c'est une blague, ennemi héréditaire depuis peu de temps, c'est-à-dire depuis 1870 de l'Allemagne, enfin un petit peu plus que ça de la part de la France quand même. Il y a une certaine hérédité agressive.
Le Palatinat.
Oui. Bon, depuis le XVIIe siècle, en tout cas, il y avait un contentieux. Et Hitler qui avait une vision très continentale des choses, estimait qu'à l'Ouest, l'adversaire constant de l'Allemagne était la France. Mais il estimait que le destin allemand n'était pas du tout d'attaquer la France. Nous allons y revenir. En revanche, il estimait que contre cet adversaire français de l'Allemagne, l'Allemagne disposait d'un allié naturel, ce qui est vrai historiquement. Cela s'est manifesté bien des fois, notamment à l'époque napoléonienne. Et ça s'est manifesté encore dans l'entre-deux-guerres. L'allié naturel de l'Allemagne était la Grande-Bretagne et l'Italie, pensait-il. Voilà quelle était sa vision des choses. Par ailleurs, pour en raison de son interprétation raciale de l'histoire. Il se sentait en communauté profonde avec la Grande-Bretagne, population d'origine germanique également. Il avait la plus grande admiration pour l'œuvre coloniale de la Grande-Bretagne, et il estimait que l'avenir de la civilisation, c'était une répartition des tâches à l'Angleterre, le royaume des mers et des possessions coloniales, et à l'Allemagne, la possession et l'organisation du continent. Voilà quelle était sa façon de voir. Et il a mis très longtemps à en démordre, parce que c'était une conception, d'abord parce que c'était un imaginatif, c'était à sa façon un sentimental, c'était en tout cas un idéologue, et sa vision des choses était très marquée par ses sentiments et par son idéologie que j'ai rappelée. Ce qui fait que, après sa victoire contre la France en juin 40, il doit, logiquement, agir contre l'Angleterre ou contre la Grande-Bretagne, qui est en réalité son ennemi. Mais lui a toujours l'espoir de trouver une entente avec la Grande-Bretagne. Et de fait, il existe en Grande-Bretagne un courant, pacifiste, qui est assez favorable à une entente avec l'Allemagne. Mais Hitler n'a certainement pas mesuré ce que représentait la personnalité de Churchill et l'emprise que très vite Churchill va avoir sur la Grande-Bretagne, et donc le tournant qui va se produire à partir du moment où Churchill sera au pouvoir et à partir du moment où Churchill recevra le soutien de l'opinion britannique. Bref, pour lutter contre l'Angleterre, non pas pour la vaincre, Hitler ne souhaite pas vaincre l'Angleterre à ce moment-là. Hitler souhaite toujours un accord avec la Grande-Bretagne. Et pour obtenir cet accord, eh bien, il veut éliminer la menace qui se présente pour lui à l'Est, c'est-à-dire la Russie. Et il pense que s'il élimine cette menace, donc s'il retire à l'Angleterre un allié futur, un allié potentiel représenté par la Russie, il pourra trouver un terrain d'entente et enfin une négociation, ce qui est son rêve. Voilà ça, l'intention immédiate d'Hitler. Il y a une deuxième intention qui, elle, est à long terme et qui a été exprimée d'une façon très claire dans Mein Kampf, dans le deuxième volume publié en 1926, et dans lequel, en substance, Hitler dit le destin de l'Allemagne n'est pas vers l'Ouest. Nous devons tourner nos regards non pas vers l'Ouest, c'est-à-dire à l'encontre de la France. Nous devons même trouver une entente avec la France, même si on ne l'aime pas, pour tourner nos regards et nos efforts vers l'Est. Car c'est à l'Est que se trouvent les territoires qui sont nécessaires à la vie du peuple allemand. C'est vers l'Est que se trouve notre espace vital. C'est là que nous devons conquérir des terres pour permettre l'expansion allemande, etc. Donc ça, c'est la vision à long terme, à laquelle il faut ajouter un troisième point, évoqué tout à l'heure par Philippe Conrad. C'est l'anti-bolchevisme qui est celui d'Hitler, anti-bolchevisme foncier, profond, depuis les tentatives révolutionnaires en Allemagne de 1919, les très mauvais souvenirs qu'il a de la République des Conseils à Munich au début de 1919, l'horreur même qu'il ressent à l'encontre du bolchevisme ou du communisme en général, et il veut régler son compte au communisme et au bolchevisme. Voilà, nous avons les trois
éléments,
les trois buts de guerre.
Se rapprocher des Britanniques.
Trouver, en écrasant la Russie soviétique, trouver, grâce à cela, une possibilité de négociation avec l'Angleterre.
Deuxièmement, liquider le communisme.
Liquider le communisme. Et troisièmement, ou deuxièmement, peu importe, créer un espace vital pour le peuple allemand à l'Est. Par la conquête de territoire, c'est-à-dire la conquête essentiellement d'une grande partie de l'Ukraine.
Alors tout cela passait bien entendu par une victoire sur l'armée rouge, et ne pensez-vous pas qu'Hitler se soit laissé influencer dans le mauvais sens pour lui, en donnant trop d'importance à la défaite, aux difficultés militaires soviétiques sur le front finlandais, et Hitler n'aurait peut-être pas suffisamment étudié les campagnes dont nous avons parlé lors de la dernière émission contre les Japonais en Extrême-Orient. Mmh. Et que s'est-il passé à ce moment-là? Était-il mal renseigné? A-t-il été désinformé? Ou bien a-t-il péché par suffisance?
Oui, tout ça est exact, on va le voir d'ailleurs, mais après avoir examiné les intentions d'Hitler, quelles étaient les intentions de Staline?
Oui, mais
puisque ça, quand il y a deux... Pour en revenir à notre point de départ, c'est-à-dire...
Staline veut attaquer, nous dit le brise-glace.
Quelles étaient aujourd'hui, que savons-nous des intentions de Staline? Alors, nous sommes d'abord moins renseignés, pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, que pour Hitler. Mais nous savons quand même des choses. On sait, bien sûr, que l'intention profonde de Staline était de porter la révolution à l'Ouest. Et que la grande idée depuis 1917 était de porter notamment la révolution en Allemagne. Cœur de la révolution, patrie de Karl Marx, etc., puissance économique, scientifique, etc., considérable. Alors, bon, ça c'est une vision à long terme. Mais, par ailleurs... Staline suit une ligne stratégique, de même qu'Hitler a une ligne stratégique. La ligne stratégique de Staline, contrairement à celle d'Hitler, est une ligne d'abord prudente. Staline a toujours été, à la fois en politique intérieure et en politique étrangère, il a toujours été prudent. Il a toujours avancé un pied devant l'autre, et sans prendre de risques énormes. Et depuis 1935, comme le rappelait tout à l'heure Philippe Conrad, depuis 1935, Staline, 1935, ça signifie l'époque où l'Allemagne national-socialiste commence à devenir puissante et où une alliance va se dessiner entre des États que l'on appelle fascistes. Et à partir de ce moment-là, l'idée de Staline est de faire en sorte qu'un conflit éclate entre ces puissances entre guillemets fascistes et les puissances entre guillemets démocratiques, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, la France, éventuellement les États-Unis, mais pour le moment les États-Unis sont loin. Et tous ces efforts vont peser dans ce sens. La mobilisation antifasciste va peser dans ce sens, etc., etc. Tout cela a été parfaitement évoqué par Philippe Conrad. Son idée est, son souhait n'est pas tellement une guerre directement contre l'Allemagne, mais son souhait serait une grande belle guerre entre l'Allemagne et la France qui s'est produite en 1940. Malheureusement pour lui, la guerre s'est arrêtée trop vite et l'Allemagne n'en a pas souffert. Il souhaiterait que la guerre reprenne entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne, puis peut-être ultérieurement les États-Unis, comme ça s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. Hein. Et à la suite d'une telle guerre entre l'Allemagne et les puissances anglo-saxonnes, où chacune se serait vidée de sa substance et se serait bien entre eux détruite, alors lui, à ce moment-là, pourrait intervenir avec ses forces et imposer sa puissance sur le continent européen. Voilà, c'est à peu près ça, la vision stratégique de Staline. Mais comme toujours, dans une vision stratégique, ensuite, il y a des adaptations. Alors, du côté allemand, quelle est la mise en œuvre du plan? Puisque Hitler, je le disais tout à l'heure, le 31 juillet 1940, 31 juillet, c'est tôt, hein, c'est-à-dire à peu près un mois et demi après sa victoire sur la France, même pas, six semaines après sa victoire sur la France, le 31 juillet 40, Hitler annonce au haut commandement de la Wehrmacht, nous devons nous débarrasser de la Russie au printemps 1941. Ce sont les termes qu'il utilise. Et immédiatement, la machine, la belle machine militaire, fonctionne. Et dès les premiers jours du mois d'août 1940, le général de brigade Marx élabore le premier plan opérationnel, qui sera ensuite modifié. Il y aura plusieurs plans opérationnels. Mais, donc, dès le mois d'août, on a un premier plan opérationnel est conçu et travaille, est au travail.
Et quels sont les renseignements de l'état-major allemand à ce moment-là?
Ils ont des renseignements, mais ils ont des renseignements qui sont anciens. Parce que, en raison des relations intimes qui ont existé entre militaires allemands et militaires soviétiques jusque vers 1934. Suite au traité de Rapallo, rappelé tout à l'heure par Philippe Conrad, avec présence sur le territoire soviétique, non seulement de conseillers militaires allemands qui ont participé à la réorganisation de l'armée rouge, mais surtout qui avaient à leur disposition des terrains d'entraînement, à la fois des terrains d'entraînement, des terrains de manœuvre pour la future guerre des chars, et des aérodromes sur lesquels ils pouvaient faire des essais avec leurs nouveaux avions. Donc il y avait une présence allemande significative sur le territoire soviétique et des relations avec les militaires soviétiques au plus haut niveau, ce qui d'ailleurs est à l'origine du complot remarquablement monté par les services secrets allemand contre Tukhachevski en 1937 et qui aura les conséquences que l'on sait mais que je vais rappeler dans un instant. Donc il y avait des contacts et il y avait des éléments de renseignement. Mais à partir de 1934, le rideau de fer se ferme et les renseignements ne passent plus. Et le système soviétique de l'époque était vraiment hermétique et il utilisait des moyens de protection qui n'étaient absolument pas à la portée des autres puissances et notamment pas à la portée du Troisième Reich. Le Troisième Reich a été constamment infiltré par des espions de toutes sortes et notamment par les espions soviétiques, alors que l'Union soviétique, l'URSS, elle, n'était pratiquement plus infiltrée par des espions allemands à partir de 1934. Donc, les éléments d'information étaient faibles et cela va beaucoup compter pour la suite, car le haut commandement allemand est mal renseigné sur la situation. Un exemple, lorsque l'attaque contre l'URSS commence le 22 juin 1941, le haut commandement allemand évalue le parc de blindés. On appelle ça des tanks ou des chars. En réalité, c'est un mélange. Il y a à la fois des chars, il y a des automitrailleuses, etc. Bon, il l'évalue à 5000 blindés. Et puis, après trois semaines de campagne, nous en parlons tout à l'heure, ils en ont déjà détruit à peu près 5000, mais qu'il y en a toujours, ils réévaluent. Et ils réévaluent à 10 000. Et puis, ils s'apercevront plus tard que même l'évaluation de 10 000 était très inférieure à la réalité. On sait, ça sont les chiffres.
30 000. 20 000,
ce qui est déjà, c'est énorme. Ce qui est déjà convenable. Alors que les Allemands, en face, en alignaient sur le front d'attaque, en alignaient un petit peu plus de 3 500. Voilà. Mais nous allons revenir sur ce point. Ça, c'est pour répondre à votre question. Effectivement, les Allemands étaient loin de tout savoir et ils se sont engagés dans une opération un petit peu à l'aveuglette.
Et ils étaient loin de connaître l'état réel de l'armée soviétique.
Ils étaient loin de connaître l'état réel de...
Alors, et j'en reviens à ma question. Oui, les Allemands n'ont-ils pas confondu l'armée soviétique?
Vous avez tout à fait raison. Parce qu'ils avaient en effet... Bon, ils avaient deux souvenirs. D'abord, ils avaient leur propre expérience qui n'était faite que de victoire. Donc, une attitude un peu vaniteuse et arrogante. Et la tendance à considérer les autres comme a priori inférieurs. Et pour l'armée rouge, ils avaient l'observation de la guerre d'hiver contre la toute petite Finlande et contre la microscopique armée finlandaise, devant laquelle l'armée rouge s'était cassé les dents pendant plusieurs mois. Donc ils en avaient, et l'armée rouge avait très mal manœuvré. Ils avaient également le souvenir de la guerre d'Espagne, qui avait été un simple terrain de manœuvre, et ils savaient que les conclusions tirées par les soviétiques de la guerre d'Espagne en matière de garde blindée, etc., étaient tout à fait erronées. Et puis enfin, ils ne pouvaient pas ignorer, et pour cause, puisqu'ils étaient à l'origine en grande partie de cela, ils ne pouvaient pas ignorer l'importance qui avait été celle des purges de 1937, qui avait décapité le haut commandement. Alors, quel était l'état des forces en présence le 22 juin 1941 ? L'état réel, pas celui que croyaient les Allemands. Je l'ai évoqué tout à l'heure. J'ai dit que les Allemands pensaient qu'il y avait en face d'eux 5000 chars. Bon, en réalité, je l'ai dit, les Soviétiques pouvaient aligner 20 000 chars, dont 14 000 vers l'ouest, sur le front de l'ouest. Donc, face à l'Allemagne, répartis sur une bande de territoire gigantesque, évidemment. Les avions. Du côté allemand, le front d'attaque allemand a à sa disposition 2700 avions. En face, les Soviétiques en totalité ont 9000 avions, dont 5400 sur le front ouest, c'est-à-dire face aux Allemands. Nombre de divisions, ce qui ne veut pas dire grand-chose, le nombre de divisions d'attaque allemande, 148, et en face, les Soviétiques en opposent 177. Mais, ça sont des chiffres. Alors, ce sont des chiffres, notamment, qui sont évoqués avec des petites variantes, puisqu'il y a toujours sur ces chiffres-là des variantes suivant que ce sont les chiffres soviétiques, les chiffres allemands, etc. Mais l'ordre de grandeur, c'est celui que je viens de donner. Et cet ordre de grandeur est repris, naturellement, par Suvorov dans le brise-glace et par tous ceux qui développent la même thèse. Mais les chiffres sont des chiffres. Sur le papier, ça représente d'un côté des forces absolument colossales et de l'autre des forces qui sont beaucoup plus faibles. Mais tout n'est pas dans les chiffres et tout n'est pas sur le papier. Du côté allemand, l'outil militaire de juin 1941, c'est un outil, il faut bien le dire, magnifique. C'est l'outil de toutes les victoires depuis septembre 1939. Et cet outil n'a connu que des victoires. Et non seulement il a connu des victoires, mais il s'est formé dans les guerres successives, contre la Pologne, contre la France, dans les Balkans, contre la Grèce, contre la Yougoslavie, etc. Et le commandement allemand, depuis le haut commandement jusqu'au dernier des caporaux, est composé d'hommes qui ont une expérience du combat, qui ont une expérience de la guerre et qui savent comment ça se passe. Ils connaissent leur matériel, etc., etc., y compris les chevaux, puisque l'armée allemande de l'époque, la Wehrmacht, est loin d'être ce que l'on imagine et ce que l'on dit. C'est pas du tout. Elle n'est pas composée uniquement des Panzerdivisionen, mais elle est composée en grande partie d'une vieille armée qui est en grande partie hypomobile, etc., mais bon, qui en tire le meilleur parti. Du côté soviétique, alors là, les choses sont tout à fait différentes. C'est une armée qui est gigantesque, avec apparemment un potentiel immense, mais c'est une armée qui est mal encadrée, là aussi, d'un bout à l'autre, du haut en bas de la pyramide, et c'est une armée qui est en pleine réorganisation et qui est dans une énorme pagaille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Bien, il s'est passé que après la guerre civile, il y avait eu des efforts d'organisation de l'armée rouge, mais ces efforts ont été largement ruinés par les grandes purges de 1937. Grandes purges qui ont comme point de départ un montage remarquable des services spéciaux allemands nazi d'ailleurs, puisqu'il s'agit du SD qui a monté cette opération-là, c'est Heydrich qui a monté cette opération-là, et qui a fait passer par un tas de canaux, tout cela est très connu, qui a fait atterrir sur le bureau de Staline la preuve, fausse preuve, que Tchoukalevski complotait contre lui, était prêt à s'entendre éventuellement avec l'Allemagne pour le renverser. Bon, c'est ça, en gros, le schéma. Et alors, Staline a réagi avec la vigueur que l'on sait. Il avait besoin de ça, d'ailleurs, pour éliminer des gens qu'il considérait comme peu sûrs, tout à la fois dans l'armée et dans le parti, mais dans l'armée, cela représentait quelque chose d'absolument inimaginable. Alors, il y a eu 30 000 officiers qui ont été fusillés, mais pas n'importe quel officier. Ça a commencé par la part la plus importante était au niveau le plus élevé et la moins importante au niveau le plus bas. Sur 15 commandants d'armée, 13 fusillés. Sur 85 commandants de corps d'armée, 57 fusillés. Sur 195 commandants de division, 110 fusillés. Autant dire...
Désorganisation totale.
Totale désorganisation. Non seulement désorganisation totale, mais quelle était l'attitude des survivants? Les survivants étaient des malheureux qui faisaient dans leur culotte, pardonnez-moi cette expression, nécessairement. C'est-à-dire que les survivants étaient des gens qui ne pouvaient prendre aucune initiative. C'était des gens qui vivaient dans la terreur. Et c'est cette armée-là, vivant dans la terreur, incapable de prendre initiative, complètement désorganisée, qui est l'armée rouge du 22 juin 1941. Il faut ajouter à cela que cette purge gigantesque de 1937, non seulement avait décapité le commandement de l'armée rouge, l'avait désorganisé, mais avait eu, comme souvent chez les soviétiques, avait eu une incidence sur la doctrine militaire. Puisque Tukhachevski était un traître, et autour de lui, il n'y avait que des traîtres, la doctrine qu'il avait établie ne pouvait être qu'une doctrine traîtresse. Donc il fallait l'abandonner.
Et quelle était cette doctrine?
Alors, la doctrine de Tukhachevski était en gros la doctrine allemande qui a triomphé un petit peu plus tard, c'est-à-dire une armée motorisée et organisée, à la fois blindée, mais pas exclusivement blindée, mais motorisée. Et il avait développé un effort très important. On peut dire qu'une grande partie de l'effort des plans quinquennaux avait été fait dans ce sens-là. Mais tout cela a été ruiné, évidemment, par les conséquences de 1937.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Serge de Becquetch, dirigé ce soir par Bernard Lugan. Avec Dominique Vénère et Philippe Conrad, nous parlions de l'opération Barbarossa. De nombreuses questions d'auditeurs, Victoria, pourriez-vous nous en citer, nous en lire quelques-unes, s'il vous plaît?
Émission très politiquement correcte. C'est l'Américain Donovan, chef de l'OSS, qui est venu en mars 41 en Yougoslavie et qui a incité, avec menace à l'appui, le chef de l'armée yougoslave à faire un coup d'État et non les Anglais.
Continuez.
Je partage tout à fait votre analyse. On peut supposer que si Staline avait pris l'initiative de l'offensive en 42, il est probable que l'armée soviétique ne se serait pas arrêtée à Berlin, mais aurait envahi toute l'Europe occidentale. Hitler, en quelque sorte, nous a peut-être évité le pire. Et enfin, Hitler, dans sa proclamation au peuple allemand, au début de l'opération Barbarossa, souligne que l'Allemagne était exposée à une attaque à brève échéance de l'URSS. Est-ce là un argument de propagande ou est-ce que cela correspond à la réalité?
Alors, ces questions...
Oui, alors, sur ces questions... Bon, Yougoslavie, c'est un sujet sur lequel nous pourrons revenir ultérieurement. La question, finalement, c'est la question finale à laquelle qui se rapporte directement au sujet en tant que question et non pas simple observation. La question finale, effectivement, au moment de l'attaque allemande 22 juin 41, ça a été la déclaration d'Hitler qui a été reprise par tous les moyens d'information. Ça a été d'ailleurs le sens du message remis par l'ambassadeur d'Allemagne, von Schussenburg, à Molotov, au petit matin du 22 juin. L'Allemagne entreprend cette action pour se prémunir contre une attaque qui la menaçait. Voilà. Ça, c'est évidemment une position de propagande. Alors, cette position de propagande peut recouvrir une réalité ou ne pas recouvrir une réalité. Alors, c'est ce que nous avons examiné depuis tout à l'heure. Hein. Et on peut continuer sur ce...
Tout à fait.
Effectivement, sur cette réalité.
Alors... Voulez-vous que nous revenions à la théorie du brise-glace, Dominique Vénère, parce
oui,
que l'heure tourne.
Non, mais il y a une question, je crois, qu'il faut se poser, puisque finalement, c'est une des questions importantes. Staline était informé depuis longtemps par des voies multiples et différentes de l'attaque allemande qui se préparait. Or, tous les ordres donné notamment aux armées, à l'armée rouge, par Staline, montre qu'il fait tout pour calmer le jeu et pas du tout pour préparer une attaque à ce moment-là, mais au contraire pour ménager le partenaire allemand du pacte germano-soviétique depuis le 23 août 1939. Il fait vraiment tout.
Car il sait que son armée est faible.
Alors, pourquoi agit-il ainsi? C'est la question qu'on peut se poser. Il sait sans doute que son armée est faible. À quel point, on l'ignore. On ne sait pas. On ne sait pas parce qu'encore une fois, le personnage secret, il n'a pas écrit de souvenirs. Ce que nous avons sur lui, ce sont trois témoignages à notre connaissance. Nous avons le témoignage de Molotov, qui était à ses côtés et qui était l'observateur direct tout à la fois de la période immédiatement préparatoire à l'attaque allemande, qui était à ses côtés dans les jours qui ont suivi l'attaque allemande où Staline s'est effondré et était en état de quasi-dépression nerveuse puisqu'il disparaît pendant pratiquement 8 jours. Et... Ça explique, mais n'anticipons pas, ça explique en partie l'état de désorganisation de l'armée rouge. Le deuxième témoignage que nous avons, c'est celui de Beria, rapporté par son fils. Je rappelle que Beria était le chef de ce qui deviendra le KGB, qui était le NKVD à l'époque, c'est-à-dire tout à la fois des services de renseignement, des services de police, police secrète, etc. Et qui était un personnage beaucoup plus fin que Molotov d'ailleurs. Molotov est une espèce de brute qui a peu de réflexion personnelle, contrairement à Beria, qui était peut-être une brute, mais qui était certainement une brute intelligente. Ça se sent très bien à travers tous les éléments communiqués par son fils. C'est un livre qui est absolument passionnant, qui a été publié en langue française, traduction publiée en langue française. C'est un livre remarquable sur cette période. Enfin, le troisième témoignage en direct, c'est-à-dire des gens qui étaient tout proches de Staline, hein, c'est celui de sa fille, hein, Svetlana, qui a également publié ses souvenirs. Alors là, il y a longtemps, et une partie des souvenirs se rapporte à cette époque-là. Voilà, ça, ce sont des témoignages en direct. Donc, on sait quel était l'état d'esprit, on sait quelles étaient apparemment ses réactions, le personnage étant secret, même avec ses plus proches. Je vais évoquer tout à l'heure quelque chose qui montre à quel point le personnage était capable de maintenir le secret avec les plus proches. Alors, il semble bien, je fais toutes les nuances possibles, il semble bien en effet que Staline n'était pas totalement convaincu de l'état de ses forces, mais il n'imaginait certainement pas l'état de faiblesse réel des forces en question. Et par ailleurs, il espérait, alors là ça me paraît invraisemblable, mais c'est comme ça, il espérait de toute évidence obtenir une prolongation du pacte avec l'Allemagne. Alors il a dit à Molotov et il a dit à Beria, j'avais besoin encore de 6 mois. Voilà, c'est la formule qu'il utilise. Molotov, dans un autre texte, dit, nous aurions été prêts, non pas en 1942, c'est-à-dire 6 mois, mais nous aurions été prêts en 1943. Ce qui correspond un peu mieux, semble-t-il, à la réalité, ce que l'on sait maintenant de l'état des forces. En tout cas, l'expérience, la réalité a montré qu'au mois de juin 1941, au moment de l'attaque allemande, l'armée rouge n'était absolument pas en état de lancer une attaque contre la puissance allemande. Et ce qui apparaît très bien, par ailleurs, c'est que Staline, en effet, s'est efforcé jusqu'au dernier instant de laisser la porte ouverte pour une négociation avec l'Allemagne. Et il était convaincu que les renseignements qui lui parvenaient, puisque le bonhomme était méfiant, ô combien, il était convaincu que les renseignements qui lui parvenaient, notamment par l'intermédiaire de Churchill, étaient destinés à le faire tomber dans un piège. Le piège, c'était déclencher la guerre contre l'Allemagne. Et il ne voulait surtout pas tomber dans ce piège. Et comme, encore une fois, il était méfiant, comme il avait l'habitude des complots, tout ce qui venait des services de renseignement lui était suspect. Sans quoi il ne se trompait pas complètement. Les renseignements des services sont toujours hasardeux, bien entendu. Par ailleurs, sans intuition erronée dans le cas précis, Hitler lui-même souhaitait certainement une négociation. Il était au courant, bien entendu, des concentrations de forces allemandes. Il savait naturellement qu'il y avait des forces considérables, mais lui aussi avait des forces considérables qui étaient massées sur la frontière. J'ai évoqué tout à l'heure l'état des forces. Et il pensait que cette concentration de forces allemandes n'était pas destinée à une véritable attaque, mais était destinée à permettre des négociations. Et il était prêt aux négociations. Alors ça, nous le savons par Molotov, qui était son ministre des Affaires étrangères, et qui a expliqué que oui, il était prêt à abandonner les pays baltes, il était prêt à abandonner la Bessarabie, il était prêt à un certain nombre de concessions territoriales importantes, il était prêt à reconnaître que toute la zone du nord, y compris la Finlande, faisait partie de la zone vitale, de la zone stratégiquement vitale pour l'Allemagne, etc. Mais les négociations n'ont pas eu l'occasion de se ressouder et de recommencer, puisque, nous le savons, la décision d'Hitler était différente.
Bien, alors donc, Philippe Conrad, Hitler a pris sa décision, nous sommes au mois de juin, que se passe-t-il ?
C'est-à-dire au mois de juin 41.
Oui, oui.
Bon. Oui, parce que, enfin, pour préciser, il y a effectivement des plans allemands qui sont mis à l'étude à partir de l'été 40, comme l'a dit Dominique. Mais la décision, vraiment dite de l'attaque, c'est seulement en décembre. Il y a le projet de l'attaque avant, mais la décision, c'est de décembre 40.
Et alors, ce qui était prévu initialement dans les plans d'Hitler et dans les plans du haut commandement allemand, c'était une attaque contre la Russie le 15 mai. C'était ça la date.
Et là, nous avons 3 mois de retard.
Et là,
deux mois de retard.
Plus de 2 mois de retard. Plus de 2 mois de retard. Dû à la campagne, c'est.
Non, du 15 mai au 22 juin.
Oui, plus d'un mois de retard.
Plus d'un mois de retard.
6 semaines de retard.
C'est ça.
6 semaines de retard en raison de cette campagne des Balkans, dans laquelle l'Allemagne s'est trouvée contrainte. S'est trouvée compromise par les initiatives folles de Mussolini.
Nous en avons parlé en première partie d'émission.
Et c'est ce qui retarde l'attaque. Non, ne se produit pas le 15 mai comme c'était prévu initialement, afin de bénéficier avant l'hiver, avant les boues et le froid, mais avant le bain de boue qui bloque toute circulation en Russie.
Le bain de boue, c'est surtout le printemps. C'est le froid.
Il a commencé au mois d'octobre.
Le bain de boue commence vraiment au dégel.
Oui, mais là, il a commencé. Il y a eu d'abord un bain de boue, et ensuite, la boue s'est transformée en glace. Tout s'est trouvé reporté de 6 semaines, et certainement ces 6 semaines ont été quelque part fatidiques.
Ce qui a trompé Staline aussi d'ailleurs en termes de calendrier, parce qu'il était persuadé que passé un certain moment dans le printemps, Hitler n'oserait pas l'attaquer pour ces raisons de conditions climatiques.
L'offensive se déclenche. Quel est l'ordre de bataille?
Nous arrivons au 22 juin. Bon, le plan allemand est simple. Il y a quatre directions d'attaque. Il y a au nord, vous avez l'armée allemande de Norvège et la Finlande qui combat aux côtés des Allemands pour prendre sa revanche sur la guerre d'hiver qui va prendre pour objectif d'une part Mourmansk, par où va arriver bientôt l'aide alliée à l'URSS, et puis d'autre part Leningrad. Vous avez ensuite un autre groupe de forces, c'est le groupe d'armée von Leb, qui se donne pour objectif également les Pays-Baltes et Leningrad, avec notamment le groupement blindé Hoepner, qui va être le fer de lance dans cette direction. Et puis au centre, vous avez le groupe d'armée von Bock, qui est l'ensemble de forces le plus impressionnant, avec 9 divisions blindées, 6 divisions motorisées, avec regroupées en 2 groupements blindés, Haute et Guderian, et qui a pour objectif, par Minsk et par Smolensk, de marcher en direction de Moscou. Et puis enfin, vous avez au sud un autre groupe d'armée, qui est le groupe d'armée von Rundstedt, qui lui bénéficie aussi du soutien de 2 alliés, les Roumains et les Hongrois, qui engagent des unités également dès les premières heures de la lutte. Oui. D'autres pays vont déclarer la guerre ensuite, la Slovaquie, l'Italie, et également à l'URSS, mais dès le départ, Roumains et Hongrois sont aux côtés des forces allemandes.
Il n'y a pas de fuite du côté de Staline par le biais de la Roumanie et de la Hongrie. Il n'y a pas de fuite.
Non, pas de fuite particulière. Je crois que Staline savait très bien qu'il y avait des concentrations de forces et de moyens sur ses frontières.
Il était trop au courant des concentrations. Il les a interbadés à côté.
Même des Roumains et des Hongrois.
Oui. Alors, ce groupe d'armée von Rundstedt, donc, qui est au sud, lui, il a pour objectif, évidemment, l'Ukraine, avec les ressources dont dispose ce pays. L'Ukraine, c'est le grenier à blé de l'URSS. En même temps, c'est la Roure soviétique. Voilà un certain nombre de directions d'attaque. Alors l'offensive se déclenche donc à l'aube du 22 juin 41. Elle va remporter des succès très rapides, tout simplement parce que les Allemands mettent en œuvre les recettes qui leur ont si bien réussi au cours des mois et des années précédentes. Ils rejouent la Blitzkrieg qui a si bien marché en Pologne, en France ou dans les Balkans. La combinaison de l'action des divisions blindées et puis de l'aviation de bombardement qui
qui assure l'accompagnement de l'offensive et l'appui au sol des blindés, ça va aboutir à toute une série de mécomptes pour les soviétiques, de véritables désastres même, puisque c'est par dizaines de milliers que les Allemands vont ramasser des prisonniers. Ils vont pénétrer très profondément à l'intérieur du dispositif soviétique, fermer loin en avant la tenaille formée par les divisions blindées, et ce sont des armées entières qui tombent ainsi entre leurs mains. Alors le problème, au-delà de ces succès tactiques rapides et éclatants, bien sûr, ce sont les contraintes géostratégiques, on peut dire, qui sont celles du territoire soviétique. Moscou est quand même à peu près 1500 kilomètres des lignes de départ de l'offensive allemande, et les Allemands ont vu très très grand, puisque l'objectif pour la campagne de 1941, c'est d'arriver sur une ligne qui irait d'Astrakhan au nord, d'Arkhangelsk au nord sur la mer Blanche, et qui arriverait à Astrakhan, aux bouches de la Volga, sur la mer Caspienne, c'est-à-dire une offensive qui aurait largement dépassé Moscou, et qui serait arrivée donc en gros à hauteur de la Volga, la majeure partie de la Russie d'Europe tombant ainsi aux mains des envahisseurs, ce qui était effectivement extrêmement ambitieux, surtout si l'on considère la date de démarrage de l'offensive. Nous sommes à une époque de guerre mécanisée, de guerre motorisée, la guerre, ça se fait à deux, il va quand même y avoir une résistance soviétique, et là, les généraux allemands ont vu très grand. Alors, on peut faire un rapprochement, évidemment, avec l'épisode napoléonien. Dominique, vous le faites,
oui, allez-y. Ce que je voulais dire, c'est que, en complément de ce que vous avez dit, qui était tout à fait exact, évidemment, le haut commandement allemand était d'un optimisme excessif. Le 15 juillet, c'est-à-dire trois semaines après le déclenchement de l'attaque, après des succès absolument vertigineux sur les 177 divisions soviétiques en ligne, les Allemands estimaient qu'ils en avaient soit détruit, soit quasiment mis hors de combat une centaine. Mais derrière, il y en a qui se reconstituaient. Et le général Halder, qui était chef d'état-major de l'armée de terre, le 15 juillet, dit « La campagne, dès maintenant, est conclue. » C'est-à-dire que pour lui, chef d'état-major de l'armée de terre, 15 juillet, il estimait que la guerre était gagnée. Elle n'était pas gagnée.
Oui, parce qu'on avait largement sous-estimé le volume des forces qui étaient disponibles en face, et surtout les réserves dont disposait l'URSS. Alors les réserves en matière de potentiel humain, on l'a vu, des réserves démographiques tout à fait impressionnantes, une capacité de mobilisation énorme, et Staline ne va pas manquer de mobiliser justement toutes ses ressources dans ce domaine, mais surtout aussi un potentiel industriel, et ça c'était généralement ignoré des Allemands, qu'à partir de 1938, Staline a systématiquement déplacé vers l'Est, notamment dans la région de la Volga, pour mettre tout cela hors de portée d'une éventuelle invasion. Et donc l'URSS, même en admettant que les Allemands arrivent jusqu'à hauteur de Moscou, garde encore des moyens et des réserves considérables pour poursuivre la lutte, puisque la Volga, ce n'est pas l'Oural, et au-delà de l'Oural, il y a déjà les nouvelles régions industrielles de Sibérie qui ont déjà commencé à fonctionner.
Alors donc, première offensive allemande qui disloque le front soviétique, on peut pas me parler de front soviétique, qui disloque la mise en place des armées soviétiques. Ouais. Et comment Staline va-t-il réagir face à cela, Dominique Guenère?
Mais il réagit d'abord par un effondrement personnel,
ce qui est tout à fait étonnant.
Que j'évoquais tout à l'heure. Effondrement complet. Pendant huit jours, le bonhomme disparaît.
La surprise est telle?
Ah, c'est plus qu'une surprise. C'est-à-dire que toute son interprétation, ce qui était terrible pour lui, c'est qu'il s'était trompé. Alors, Staline ne pouvait pas se tromper, comme Hitler ne pouvait pas se tromper, comme Mussolini ne pouvait pas se tromper, comme De Gaulle ne pouvait pas se tromper, comme Churchill ne pouvait pas se tromper, etc. Mais pour Staline, c'était peut-être plus terrible que pour tous les autres réunis. Il a eu un sentiment d'un échec.
Personnel
gigantesque, et il en percevait les conséquences quant à l'étendue de son pouvoir
sa survie
à sa survie et quant à la fragilité de son pouvoir. C'est la raison pour laquelle il est en état de dépression nerveuse. Il disparaît pendant 8 jours. Alors,
qui tient le pays?
Alors, il y a le commissariat à la guerre qui continue à fonctionner vaille que vaille avec des gens qui sont parfaitement incompétents, c'est-à-dire Voroshilov, qui est une nullité manifeste issue de la guerre civile, qui a toujours été dans le clan stalinien et qui est en une nullité ne gêne pas Staline, c'est la raison pour laquelle on l'a maintenu en place. Et autour, alors, se constitue peu à peu, vaille que vaille, par initiative, l'une des initiatives qui va jouer, qui va être importante, c'est l'un des... parmi les grands chefs de l'armée rouge qui ont échappé à la purge de 1937, Joukov...
Nous le connaissons bien, Joukov.
Nous l'avons évoqué oui. Il y a un mois.
L'homme de la Mongolie.
Et qui, en Mongolie, a fait ses preuves. Et
contre les Japonais,
il a montré de quoi il était capable, et il va intervenir. Il a une fonction qui est analogue à un chef d'état-major à ce moment-là. Il n'est pas fait pour ça d'ailleurs. C'est un excellent commandant d'armée, il le montra abondamment, mais chef d'état-major général, c'est pas exactement dans ses cordes. Cela dit, il va faire face. Et il va prendre de sa propre initiative tout de suite un certain nombre de décisions. Donc les premières décisions, c'est lui qui les prend, et autour de lui, il y a plusieurs politiques qui à leur tour interviennent. Molotov n'est pas est loin d'être un génie. C'est le premier qui parle à la radio, par exemple, et ce qu'il dit ne peut pas mobiliser ni les troupes ni les esprits. Staline parlera pour la première fois à la radio le 3 juillet. Il faut dire que c'est la deuxième fois de sa vie qu'il parle à la radio. Hein. Ce n'est pas un utilisateur habituel de la radio, contrairement à Hitler ou contrairement à d'autres personnages historiques. C'est la deuxième fois qu'il parle à la radio aux soviétiques. Et là, il fait un discours de circonstance qui est bienvenu. Il ne s'adresse pas simplement aux camarades, il s'adresse à ses frères et à ses sœurs russes. C'est-à-dire que c'est la première fois... qu'un langage patriotique représentant le vieux fond charnel du patriotisme passe par la bouche de Staline. Le personnage n'est pas complètement idiot. Pendant sa cure de recueillement ou pendant son effondrement, il a compris une chose, c'est qu'il fallait certainement s'appuyer pas simplement sur des réflexes communistes qui existent sans doute, mais qu'il fallait s'appuyer sur quelque chose de plus fort, c'est-à-dire sur le vieux réflexe du patriotisme. Et Staline, et évidemment derrière lui, l'ensemble de la machine, va utiliser ça au maximum. Par ailleurs, il reconstitue, alors dès qu'il refait surface, il va constituer un nouveau commandement qui s'installe le 10 juillet sous sa direction. Et ce nouveau commandement, la Stavka, il réutilise le vieux terme qui était celui du haut commandement de l'armée impériale, est constitué avec en partie les officiers qui n'ont pas été liquidés en 1937, mais notamment des anciens officiers de l'armée impériale.
Qui sortent d'où, les anciens officiers?
Qui servaient dans l'armée rouge. Il y a eu énormément d'officiers de l'armée impériale qui ont servi dans l'armée rouge dès la fin de la guerre civile, pendant même la guerre civile et au lendemain de la guerre civile.
Comme dans les armées de la Révolution.
Comme dans les armées de la Révolution. Et son chef d'état-major, jusqu'à la fin de la guerre, est un ancien colonel breveté de l'armée impériale, dont le nom est relativement peu connu, sauf des spécialistes, qui est Shaposhnikov, et qui va jouer à côté de lui un rôle très important. Et il a une particularité, qui est en effet très importante, il a l'art de parler à Staline avec une certaine liberté. C'est-à-dire qu'il sait se faire entendre sans être envoyé immédiatement dans une cave de la Loubianka. Et comme il a des talents, certainement, cela favorise les choses. D'autre part, Staline n'a certainement pas de talent militaire au sens tactique. Et chaque fois qu'il est intervenu dans le domaine tactique, ses idées se sont révélées malheureuses. En revanche, il avait certainement une perception des ensembles et une certaine perception, une ruse, le sens des grandes ruses stratégiques. Il y a un fait qui montre cela. C'est ce que va être son intervention dans la bataille de Moscou qui commence à la fin de l'automne 1941, au début de l'hiver 1941, lorsque Moscou est menacé par les armées allemandes. Il a confié la défense de Moscou à Yukov, qui est certainement le meilleur des généraux russes de l'époque. Et Yukov fait tout ce qu'il peut avec les moyens qui sont à sa disposition. Mais ces moyens fondent. Et Yukov se tourne vers Staline et lui demande des renforts. Il sait qu'il doit y avoir des renforts, mais il n'en est pas le maître. Il lui demande des renforts et Staline dit non, je n'ai pas de renforts à donner. Je n'ai plus rien. Il faut se débrouiller. Il faut faire face. Enterrez-vous, faites-vous tuer, etc. Et la consigne, c'est ça, de se faire tuer, etc. Et cela jusqu'au dernier moment. Et au dernier moment, lorsque Staline estime que les forces allemandes qui marquent le pas devant Moscou, qui ne sont pas parvenues à percer, il estime qu'à ce moment-là, le moment est venu de déclencher une contre-offensive qui va briser définitivement, souhaite-t-il, la Wehrmacht, et qui va la pulvériser. Et il lâche sur Moscou 5 armées de réserve qui étaient maintenues dans le plus grand secret, qui étaient les seules véritables armées modernes, bien commandées et perfectionnées qu'avaient à leur disposition les soviétiques, et qui avaient été constituées en Sibérie avec des Sibériens et qui disposaient de l'armement le plus moderne. C'est à ce moment-là que l'on va voir arriver pour la première fois en masse sur le front les fameux chars T-34 qui sont les meilleurs chars de cette guerre.
À quelle époque sommes-nous là?
Nous sommes en décembre.
Donc,
décembre 41.
Les forces sibériennes interviennent avec leur équipement d'hiver,
oui,
lancées dans la bataille au bon moment.
Au bon moment. Bon.
Alors, mais
parenthèse, oui. Staline récidivera le même coup à Stalingrad.
Oui. Et les Allemands sont incapables d'anticiper cette manœuvre.
Personne n'a rien vu. D'ailleurs, quand bien même aura-t-il anticipé, il n'y pourrait rien.
Surprise, la contre-offensive soviétique de Moscou, c'est une surprise pour les Allemands, c'est évident.
Alors, les Allemands ne marquent pas de coup d'arrêt avant cette contre-offensive.
Oui, ils ont marqué un premier coup d'arrêt en septembre, après avoir avancé de manière assez spectaculaire, à hauteur de Smolensk à peu près. Et là, ils relancent une deuxième opération, qu'ils appellent l'opération Tempête d'hiver, ou Typhon, et pour laquelle ils vont regrouper de gros moyens pour essayer d'emporter la décision sur Moscou. Seulement, le problème, c'est que Hitler, au cours de cette campagne de 41, a voulu courir plusieurs lièvres à la fois. C'est-à-dire qu'il a voulu à la fois s'emparer de Leningrad à cause de la valeur symbolique que représentait évidemment cette ville. Il a voulu s'emparer en même temps dans cette même direction de Mourmansk pour empêcher l'aide anglo-américaine d'arriver en URSS. Et il souhaitait aussi mettre la main en plus sur l'Ukraine à cause des ressources que celle-ci représentait pour l'URSS, bien sûr, en tant que potentiel économique. Alors évidemment, faire l'effort sur 3 directions à la fois, c'est évidemment prendre le risque de n'aboutir complètement sur aucune. Alors les résultats ont été inégaux. En tout cas, Moscou n'est pas tombé.
Napoléon n'avait pas commis cette erreur. Et d'ailleurs, un de nos auditeurs nous le fait remarquer, n'est-ce pas,
oui,
Victoria?
Oui, nous demande, est-ce que la stratégie allemande au début de l'opération Barbarossa, qui consistait à mener une offensive dans 3 directions simultanément, Leningrad, Moscou, Sébastopol, n'était pas une erreur que Napoléon n'avait pas commise en se dirigeant directement sur Moscou?
Oui, bon, c'est toujours facile à dire après, évidemment, quand on connaît le résultat.
Le rapport à l'espace n'était pas le même non plus en 1812.
Non, bien sûr. Mais il y a une chose qui est surprenante Là, c'est une simple remarque. Il y a une chose qui surprend dans la décision d'Hitler. En effet, en septembre, c'est ça, de porter tout à coup l'effort en direction du sud. Il veut se rendre maître des sources
de pétrole
pétrolifères. Alors, en soi, c'est pas idiot. Effectivement, s'il bloque non seulement s'il bloque les ressources, ou simplement s'il devient maître de la Volga, c'est-à-dire s'il interdit le trafic qui est la Volga et c'est l'artère vitale qui fait tout passer en Russie à cette époque-là. S'il prend le contrôle de la Volga, le pétrole ne circule plus, le pétrole n'arrive plus ni dans le nord ni à l'est, ni au centre, ni dans le nord, ni à l'est, et tout s'arrête.
Il paralyse
tout. Donc on peut se dire que cette vision stratégico-économique reposait naturellement sur un pari en soi intelligent. Ce qui est surprenant, c'est que ce personnage qui était avant tout un politique, et qui l'a montré ô combien, et qui avait une grande perception des phénomènes de psychologie collective, n'est pas compris l'importance psychologique de Moscou, c'est-à-dire le cœur. S'emparer de Moscou pouvait symboliquement, aux yeux des Russes, aux yeux des Soviétiques et aux yeux du monde entier, représenter un symbole qui avait une puissance évidemment très supérieure à celle de s'emparer du pétrole du Caucase. Et il est possible. Alors, petite parenthèse, autour de lui, ses généraux l'incitaient à marcher sur Moscou, et notamment, on peut dire, son meilleur chef de corps d'armée ou d'armée, qui était Guderian, et Guderian avait comme particularité, comme Yukov de l'autre côté, de parler en liberté. Dans les réunions d'état-major, alors tout le monde se taisait parce que ils étaient sidérés au sens littéral par Hitler, par soit la crainte qu'il inspirait, soit son charisme, etc. Le seul qui osait parler, toujours, c'était Guderian. Et Guderian, à plusieurs reprises, s'est exprimé parce que lui sentait que l'axe d'effort devait être prioritairement sur Moscou. Hitler ne l'a pas suivi. Et pourquoi ne l'a-t-il pas suivi? Il est très possible que le souvenir évoqué par notre auditeur l'ait influencé, que le souvenir de 1812, et qu'il n'ait pas eu envie de se retrouver dans la situation de Napoléon 1812. Oui.
Bien, Philippe Conrad, il nous reste très peu de temps. J'aimerais que nous abordions maintenant ce dernier point, qui est celui de la situation, le bilan de l'opération et la situation en décembre 41, au moment où les armées vont s'enterrer.
Quand on arrive en décembre 41. Bon, alors les choses sont très simples. Les succès allemands sont incontestables, spectaculaires même, mais aucune grande décision d'ampleur stratégique n'a été obtenue. C'est-à-dire qu'au nord, les Allemands assiègent Leningrad, qui va subir un siège de 900 jours, mais qui résistera victorieusement à ce siège. Au centre, les Allemands sont arrivés à proximité de Moscou. Ils sont à une quarantaine de kilomètres. Les avant-gardes allemandes sont à une quarantaine de kilomètres de Moscou, mais l'offensive a été bloquée par l'hiver. Et il se trouve que cet hiver 41 est particulièrement rigoureux. Quand on a le thermomètre qui tombe à moins 30 au mois de novembre, bon ben la guerre mécanisée, la guerre motorisée, c'est fini. Le carburant gèle dans les réservoirs, les culasses des armes automatiques sont bloquées par le froid, etc. Et puis alors au sud, là les succès sont plus importants sur le plan du bilan, je dirais, économique, puisque une bonne partie de l'Ukraine est tombée entre les mains des Allemands qui sont arrivés jusqu'au Don. Donc attention, là il n'est pas encore question, en 41, il n'est pas encore question du pétrole. Le pétrole, l'objectif du pétrole, c'est
c'est 42. Hein, les champs pétrolifères de Maïkop, de Grozny, le pétrole de Bakou, ça va être visé par le plan bleu de 42. En 41, l'Ukraine, c'est le potentiel industriel, le charbon du Donbass, c'est le fer de Krivoy Rog, ce sont les grands équipements hydroélectriques du Dniepr. Tout ça, c'est tombé entre les mains des Allemands qui sont arrivés jusqu'au Don et qui menacent directement Rostov. Et ça va être leur ligne de départ ensuite en 1942 en direction des steppes du Kouban et du Caucase. Alors le bilan de cette campagne, pour résumer, pour essayer de dégager une synthèse, les objectifs que s'étaient fixés les Allemands n'ont pas été atteints. Ils ont porté des coups tout à fait significatifs à l'adversaire soviétique. La propagande allemande, évidemment, peut mettre en avant des victoires incontestables, des conquêtes tout à fait impressionnantes, mais l'URSS de Staline, qui s'est ressaisie, qui a renforcé, ils étaient déjà considérables, le pouvoir du dictateur, qui a centralisé vraiment autour de lui tous les pouvoirs, qui a mis en œuvre une politique de repli des populations, une politique de terre brûlée devant l'avance des envahisseurs, qui avait déjà commencé, nous l'avions dit, à replier vers l'Est une bonne partie du potentiel industriel, notamment vers la Volga. L'URSS garde encore des ressources considérables. Cela dit, la contre-offensive lancée à hauteur de Moscou n'a pas atteint non plus ses objectifs pour les soviétiques, en partie d'ailleurs à cause de la réaction de Hitler. Les généraux allemands se voyaient très bien repartir sur les lignes de départ de l'opération Typhon du mois de septembre, et c'est Hitler qui a insisté, qui a commandé que l'on se maintint sur les positions qui étaient encore tenues par les Allemands après la contre-offensive, ce qui fait que la contre-offensive de Yukov finalement n'a pas eu tous les développements qui en étaient attendus.
Dominique Venner.
Oui, pour la première fois, devant Moscou, l'armée allemande connaît un échec. Depuis septembre 1939, cette armée était allée toujours de victoire en victoire. Le début de la campagne à l'Est a commencé par une série de victoires absolument étourdissantes, et tout à coup, brutalement, devant Moscou, arrêt. Et cela a des conséquences très importantes partout, sur le front le même, dans les rapports entre les deux puissances et les deux armées. L'armée rouge, dans une certaine mesure, vient de connaître un succès, même si ça n'est pas totalement une victoire. L'armée allemande vient de connaître un échec incontestable. Cela a des effets en Allemagne même, cela a des effets dans le monde entier, et en décembre 1941 se produit un événement capital pour la suite de la guerre, c'est Pearl Harbor, entrée en guerre des États-Unis d'abord contre le Japon. Quelques jours plus tard, Hitler prend la décision, on peut le dire,
très aventurée,
de déclarer la guerre aux États-Unis, et dès ce moment-là, cette guerre change complètement de face, d'ampleur, de signification. La gigantesque puissance industrielle américaine qu'Hitler n'avait pas mesurée va intervenir dans la guerre.
Dominique Venner, merci. Nous avons un certain nombre de questions aux auditeurs, de très nombreuses questions. Gardons celles qui peuvent nous permettre de terminer l'émission.
Il y a deux commentaires que j'aurais voulu vous lire. C'est le maréchal Pétain, apprenant l'opération Barbarossa, avait porté le diagnostic suivant: ils sont maintenant foutus, en parlant des Allemands. Et dans le même temps, le général de Gaulle à Londres disait: que Dieu nous garde maintenant de l'avancée du communisme en Europe.
Intéressant, c'est intéressant.
Intéressant,
cette remarque.
Alors, il y a deux questions. C'est Comment les usines soviétiques pouvaient-elles continuer à fonctionner, notamment à Stalingrad, et produire des chars sous le feu de l'artillerie allemande? Et autre question, pourriez-vous parler de l'importance du ravitaillement américain qui parvenait par Mourmansk?
Plus tard, le ravitaillement. Oui. Philippe Conrad.
Oui, pour ce qui est des fameuses usines de Stalingrad, là, les usines Octobre Rouge, Barricade, etc., qui avaient été reconverties, elles étaient à l'origine des usines de tracteurs pour fabriquer des chars. Il est clair qu'elles ont rempli cette mission à un régime très soutenu jusqu'à l'été de 1942, mais quand la bataille de Stalingrad a commencé, évidemment, les usines en question sont très vite retrouvées à l'état de champs de ruines et de champs de bataille, puisqu'on s'y est battu très, très farouchement à partir de septembre 1942. Donc, c'est plus Stalingrad qui fournit aux Soviétiques les chars dont l'armée rouge a besoin.
Alors, d'où viennent-ils?
Ils viennent d'autres régions qui ne sont pas encore, comme disait notre correspondant, sous le feu, évidemment, des Allemands, qui ne sont plus directement sur le front. Et puis, il y a beaucoup de matériel, beaucoup de moyens qui arrivent, effectivement, à la fois par Mourmansk, puis également par l'Iran, au titre du prêt-bail américain, dont l'URSS a bénéficié très vite, avant même l'entrée en guerre des États-Unis en décembre 1941.
Oui, on ne voit jamais sur les photos de guerre soviétiques de chars Sherman, mais... progressivement, il y a eu un nombre important de chars Sherman qui ont été engagés, pas tout de suite, bien entendu. Il y a eu énormément de matériel roulant, camions, etc. Beaucoup de matériel, effectivement, qui ont favorisé l'effort de guerre soviétique.
Oui, nous devons rappeler la référence de la musique qui accompagne cette émission. C'est Victoria qui va nous le
chanter. Oui, alors, Requiem Doc Game, Ensemble Organum, référence HMC 901-441. Et puis...
Oui, Victoria, je vous en prie. J'ai encore une annonce à faire, mais allez-y.
Je peux annoncer, enfin, je rappeler, parce que plusieurs auditeurs leur demandent, votre conférence... qui aura
Alors,
lieu.
Philippe Conrad, c'est vous qui organisez.
Je répète, donc, le 18 octobre, place Saint-Germain-des-Prés à 20h30, dans les salles d'encouragement de l'industrie nationale, voilà. Et c'est la salle Chaptal, c'est celle qui est au rez-de-chaussée, je crois.
Une conférence qui sera consacrée, donc, à la désinformation en Afrique.
À propos de l'histoire de l'Afrique, contre l'histoire politiquement correcte de l'Afrique.
Et puis l'abonnement à votre revue.
Alors, à l'Afrique réelle. À l'Afrique réelle, 380 francs pour 4 numéros. Et l'adresse de l'Afrique réelle est l'Afrique réelle, boîte postale numéro 6, 03140 à Charroux.
Je rappelle que le 2R à Charroux.
2R. Et le prochain numéro sera consacré, aura un dossier très important consacré à cette question d'esclavage. Je voudrais également redonner pour nos auditeurs nos prochains rendez-vous avec Philippe Conrad et Dominique Venner sur cette antenne dans le libre journal de Serge Beketch. Donc nous nous retrouvons tous les trois, Philippe Conrad et Dominique Venner. Nous nous retrouverons le mercredi 17 octobre, le mercredi 7 novembre, et le mercredi 19 décembre. Je répète, mercredi 17 octobre, mercredi 7 novembre et mercredi 19 décembre. Alors, j'avais annoncé... Oui, pardon.
Et le 17 octobre, ce sera une émission un peu particulière.
Oui, nous avions annoncé pour aujourd'hui une émission un peu particulière. Cela est reporté d'un mois. Chers auditeurs, soyez à l'écoute de l'émission du 17 octobre. Alors, je pense que vous allez apprendre des choses tout à fait intéressantes, très instructives, et qui vont permettre de remettre à l'heure bien des pendules de la désinformation actuelle. Une émission, donc, soyez à l'écoute, chers auditeurs. Auditeur, le mercredi 17 octobre.
Vous devriez nous dire un petit
Non, Victoria, vous êtes trop curieuse, mais vous le savez, je vous l'ai dit.
Non,
c'est une surprise.
Seulement une petite indication.
Mais non, ce n'est plus une surprise.
Pour les plaisirs de la surprise.
Alors. Bien, Victoria, merci et bonsoir. Dominique Venner, merci et bonsoir. Philippe Conrad, merci, bonsoir.
Bonsoir.
Rendez-vous au mercredi 17 octobre.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Beketch. dirigé par Bernard Lugan, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 5 septembre de 18 à 21h, en différé jeudi 6 septembre, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30.